Et oui, formule 100% parlée tout l'été à Boulevard 102-1. Autant dans Marceau le matin que dans le point de Max, que dans On en jase, que dans le retour. D'ailleurs, retour avec Nathan, Antonine et Véro. Ça se passera à compter de 14h. Là, il est midi, vous êtes avec Jeff Fortin et Pascal CV dans l'émission On en jase. Après cette petite journée de congé très, très, très plaisante, Pascal CV, comment vas-tu?
Salut, mon cher Jeff, ça va super bien.
Ah, nice! Il y a le fun, là, cette bed-là, Crim.
On donne un coup de danse.
Ouais, ah, c'est vraiment estival, j'aime ça.
As-tu passé une belle journée de vacances?
Passé une très belle journée de vacances, mais Pascal, je me suis rendu compte que je suis vieux.
OK.
Je suis rendu à 46 ans, je suis vieux, vieux, vieux.
Bon,
vieux,
mais dans
vieux.
Quoi? C'était pas vieux dans tout, là.
Ah, la chaleur!
Ah.
Je suis rendu affecté par la chaleur.
Ça t'a accablé.
Ben oui.
Mais dans quel sens? Parce que là, t'as pas de... d'air climatisé à la maison?
Ouais, oui, il y a ça, mais le sous-sol est vraiment frais. Mais 418-971-102, êtes-vous affecté ou non par la chaleur? Je t'explique pourquoi. Ma blonde disait, hey, ce serait cool, fait longtemps qu'on est allé dans Limoilou. On va aller se promener sur la 3e avenue.
Okay.
On va se trouver une place pour déjeuner. Puis let's go. Fait que parfait.
Fait qu'on déjà rire.
On commence ça comme d'habitude avec un petit café sur le patio. Ta barouette, je suis ma vie, je suis assis sur mon divan de patio.
Puis tu fais rien, là. Tu
fais juste, rien.
Tu fais juste prendre des petites gorgées de café.
T'es obligé d'avoir une serviette à côté de moi pour m'essuyer.
Le matin.
Bon, oui, là, il est un temps de 10 heures le matin. Là, je suis comme, okay, ça pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça, le vieux bonhomme? T'sais? Je vois mon père faire ça il y a 70 ans. Plus de 70 ans. Là, je me dis, okay, je peux pas m'essuyer de même à 46.
T'es-tu dans ton andropause?
C'est pas
vrai. T'es-tu un symptôme? Continue.
Ouais, fait que là, j'ai ma blonde, parfait, c'est bon, s'en va dans Limoilou. Hey, là, on s'assoit sur la terrasse. Là, elle, stratégiquement, dit, assis-toi là, tu vas avoir un peu plus d'ombre, parce qu'elle voit bien que je suis comme un déchaîné. Puis là, finalement, le soleil, elle se déplace, fait que je commence à être au soleil. Hey, là, les cheveux me viennent plein d'eau, tout le kit. Fait que là, on
fait
tasse
que là, le déjeuner
la
un peu
table,
moins le fun à date,
on
là.
Tasse la table un peu. Mais tu sais, c'est le fun, je suis avec ma blonde.
Puis elle a pas de
elle
problème.
Elle a une belle robe, elle. Non, pas en tout. Après ça, on marche dans Limoilou. Je dis, hey, on va-tu prendre une petite bière sur la terrasse de la souche? Ah, ouais, non, on va prendre une petite bière là, tout le kit. Et puis finalement, on revient à la maison. Mais là, je reviens à la maison, je descends dans mon sous-sol. C'est tout frais. On est bien. Puis le vieux bonhomme a été affecté par la chaleur. Caroline, j'ai fait une sieste d'une heure et quart.
Non. J'avoue que c'est beaucoup.
J'avoue, non, c'est pas de bon sens.
46 ans, t'as dit?
46. Hey, remonte à quand j'avais 30 ans.
Ouais.
Une chaleur comme hier, j'allais courir 15 km dehors, je revenais, je jouais avec les enfants dans la cour. Je veux dire, je faisais à déjeuner. Il n'y avait rien à
là,
mon épreuve.
Tu viens me chercher un peu parce que moi, hier, je suis allée courir puis je l'ai mis. Je me suis mis des petites affaires sur Instagram une fois de temps en temps. Le nombre de messages que j'ai eu du genre « T'as-tu mis des ice packs dans ta veste de corps? » Puis j'étais comme « Ben non, gang, les muscles sont chauds, ça
ben,
fait bien,
c'est ça,
moi,
tout le
ça.
Monde me disait ça quand j'allais courir à ces températures-là. « Ouais, on est malade, tu vas tomber au combat. » Puis j'étais comme « Hey, écoutez, j'adore ça. »
Puis je suis allée souper chez ma sœur. Ma sœur, impossible à sortir. J'ai dit « Je m'en vais si on sort pas dehors. »
Mais non.
J'ai dit « On a 4 jours d'été. » Non, non, l'air climatique. Mais en tout cas, 46 ans, OK?
Ah, oh, oui.
Je veux voir si t'es tout seul dans ta gang.
OK.
88-971-102.
Ben, c'est ça, il y a du monde qui écrivent.
Bon, l'andropause, OK? Jeff, c'est entre 45 et 65 ans habituellement. On va aller voir tes rendu un vieux bonhomme.
Dedans. Okay? Ouais, Kim, il me traite de vieux présentement.
J'ai besoin que tu répondes oui ou non à ces symptômes-là, OK?
Mm-hmm.
Est-ce que t'as une baisse de libido?
Non.
Est-ce que
non, à moins que ma blonde dise le contraire, mais je trouve pas.
Est-ce que t'as des troubles de l'érection, Jeff?
Non plus, ça va bien.
Fatigue généralisée.
Fatigue généralisée, ouais,
horaire,
ça, je suis un peu plus fatigué avec l'horreur que j'ai, là. Ça, en effet.
Est-ce que t'as une perte de force et masse musculaire à travers les années?
Perte de force et masse musculaire. Pas vraiment perte de force. Masse musculaire, je te dirais que non. T'sais, d'autant plus, je trouve que j'en ai un peu plus qu'avant parce que là, je m'entraîne plus en gym que je fais de la course à pied.
OK.
Fait que non, pas vraiment.
Prise de poids?
Oui, ça, j'ai une prise de poids,
malgré
par
tes entraînements?
Malgré mes entraînements.
OK.
Ça, je travaille très fort pour essayer de réduire ce poids-là.
Bouffer
de chaleur.
Ça
marche pas bien,
bien. Tu te fais suer, en tout cas, clairement.
Ouais, c'est ça.
Bouffer
de chaleur, oui, là, pas le choix de dire oui avec hier.
T'as-tu des troubles du sommeil?
Troubles du sommeil? Hey, non, honnêtement, je dors bien, mieux qu'avant, même. Fait que non, pas vraiment.
Saut d'humeur?
Mais j'ai trouble. Attends une minute, trouble du sommeil, par exemple, je me réveille quand même plusieurs fois dans la nuit. Ouais. Saut d'humeur, non. Non, pas du tout. Je suis en mode good vibe.
Fait que là, docteur CV.
Ouais.
Te dit que c'est pas sûr que ce soit ton andropause qui débute, Jeff. Ça se peut que tu sois juste un vieillard en devenir.
Ben, c'est ça. C'est... Carl m'écrit, j'ai de la misère avec la chaleur.
C'est pas là. Est-ce que c'est parce que l'air climatisé est tellement rendu commune?
Ça se peut, je sais pas. Hey, écoute, ça m'a frappé hier. Continuez à nous écrire au 418-971-1021. Vous êtes super. Ça m'a vraiment frappé. J'ai dit, je suis vraiment rendu un vieux bonhomme. J'avais découvert que j'étais rendu un vieux bonhomme parce que je m'émerveille maintenant devant des choses que je m'émerveille. En tout cas, que je trouvais pas belles. Comme un canard, chaleur. Comme un canard qui se met à voler.
Ça s'appelle la légèreté d'être. Puis j'adore ça.
Ouais,
je pense que t'es pas un vieux bonhomme pour ça. Félicitations d'avoir amené ça dans ta vie.
Ben oui, mais là, je suis le vieux bonhomme qui sue.
Mettons que t'avais dit, je m'émerveille devant une tondeuse. Là, j'aurais dit, OK, là, le vieux bonhomme a kick-in comme moi avec mon Vitamix.
Ouais. Non, parce que quand je fais une sieste au lieu de passer à la tondeuse. Puis je fais une sieste, c'est grave, je suis plus capable. J'étais étourdi, j'étais comme, il faut que je me couche.
Faut que je me couche. Hey, Simon qui dit, salut les amis, quand j'étais plus jeune, disons entre 20 et 40 ans, j'aimais moins la chaleur, je portais moins bien ça. Maintenant, 50, j'apprécie chaque petite chose et chaque moment de façon différente. Alors, une journée chaude, c'est une belle journée.
Ben, je suis d'accord avec toi, Simon.
C'est l'attitude qui a décidé de
ben non, mais j'aime tellement ça, une journée comme hier, en plus d'été, je dis toujours, on n'a pas assez. Puis là, je me suis retrouvé avec cette chaleur-là. Je suis allé jouer au golf aussi mardi en fin de journée avec mon chum Pascal, puis tabarouette, je suis passé à travers mon polo. Mon polo était un tas de sueur. Une chance, je m'étais apporté un polo de rechange pour aller manger après.
Je voudrais pas être ta laveuse, en tout cas.
Ah non, non, c'est fou comment je suis... Non, j'ai toujours vu, j'ai souvent vu dans ma vie mon père se traîner une serviette quand il fait chaud pour toujours s'essuyer à la face.
S'éponger, puis ça,
puis là, je me disais, faut jamais... que je sois de même. Ben, tabarouette, hier, j'étais mon père.
Quelqu'un qui dit, moi, j'ai de la misère aussi avec ça, la chaleur. Quelqu'un d'autre qui dit, ça m'empêche de manger. Ça, par contre, c'est vrai. Tu sais, quand il fait chaud, 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 je pense qu'on est une coupe à avoir moins faim.
Oui, oui, parce que, hey, écoute, on a dîné, déjeuné hier vers 11h15, puis je pense qu'on l'a reçu pas à 8h30.
Ah, c'est ça. Là. Puis t'as besoin de manger léger, là, tu te tapes pas une grosse lasagne.
Ah, non, 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 c'est ça. Là. C'était des petites brochettes de souvlaki avec des légumes.
Ah, c'est ça.
Puis c'est ce que j'ai dit avant. J'ai dit, je fais même pas de riz parce que j'ai pas le goût de manger de quoi de chaud.
Hey, Pierre-Luc dit quelque chose que j'ai souvent eu comme hypothèse. La sueur n'a rien à voir avec l'âge. J'ai 36, je tolère la chaleur parce que je travaille dehors. Mm-hmm. Je fais du vélo même à 35 degrés, mais je suis énormément quand même. Quand j'étais jeune, là, je travaillais dans un casse-croûte. Là. Tu sais, le genre de petite cabane à patates frites, Jeff, là, où il fait 59 degrés toute la journée, l'été. Je sortais de là, même quand il faisait 28, je trouvais qu'on était confortable.
Ouais.
Fait que je pense que c'est Pierre-Luc qui a quelque chose là. Plus on
en
est
effet.
Habitué, toi, tu travailles beaucoup à l'air clim depuis des
années. T'as raison. Une auditrice qui écrit, puis c'est vraiment bon. Allô, je veux pas entrer dans sa vie privée, mais certaines médications font en sorte d'augmenter la non-tolérance à la chaleur.
OK.
Faudrait que je... Mais non, tu sais, j'ai la même médication. Moi, j'ai une médication pour mon sang, une médication pour mon anxiété. Mais j'ai la même médication depuis, depuis 2019.
Puis t'avais jamais été suintant à ce point-là, là.
Non, c'est ça. Parce que c'était une bonne hypothèse. Je me disais, écoute, j'ai-tu changé de quoi dans ma médication?
Il y a quelqu'un qui dit, la liste de questions de Pascal vient vraiment de me frapper. Je pense que j'ai coché oui à 99% des questions.
Oh, j'avoue.
Les hommes, là, sérieux, allez lire sur l'andropause. On
rit
souvent de la ménopause, qui est un sapristi de calvaire quand je vois les femmes autour de moi tomber là-dedans, là. Mais vous aussi, vous l'avez, là.
Ouais.
Puis vous n'avez pas été habitué à un changement hormonal.
Non,
là.
Non, non. Franck, qui dit, hey, vous savez enfin c'est quoi la chaleur de ménopause? Je peux te le jurer que je le savais hier, France. Tabarouette. Puis le pire, c'est que j'ai pensé à ça. Tu sais, ça m'arrive souvent de penser à la femme. Puis là, je me dis, tu sais, comme quand vous êtes dans votre semaine de menstruation, là, je me dis, hostie que je voudrais pas vivre ça.
Jeff, c'est tellement. Puis on commence tranquillement à en parler plus en 2026, pense-y, là. Mais les cycles de variation de ton humeur dans le mois.
Ben,
là,
c'est ça!
On faisait tout le temps des jokes, mais on avait vraiment jamais eu autant de données scientifiques qu'en ce moment.
Ben oui!
Puis depuis que ça sort, on se comprend mieux. Hey, y a des moments dans un mois, puis je parle avec mes amis de filles, là, où on se dit, on s'en fait même plus, parce que des fois, tu vas pleurer, puis tu dis, pourquoi je pleure pour ça? Mais j'ai quand même le goût de pleurer, puis je pleure quand même. Puis tu dis, c'est quoi qui se passe avec moi, tu sais? Puis là, tu dis, c'est hormonal, tu vas voir dans ton application, t'es à peu près là dans le mois, tu t'en fais bien moins.
Mais c'est ça. Parle. Mais c'est parce que c'est fou. Je sais que tu t'en fais bien moins, mais c'est fou parce que t'es la même personne, mais qui change constamment à cause du cycle hormonal.
Imagines-tu vivre ça?
Ben non, mais c'est
la
ça. Exactement.
Je sais pas si t'as ça, mais il y a une application qui s'appelle Flow, là. F-L-O.
Ouais, j'ai pas ça.
Moi, je l'ai, puis elle partage avec mon chum. Puis des fois, il donne des conseils du genre « Peut-être une meilleure Mossad aujourd'hui, faites-lui un compliment. » Fait que là, il m'arrive avec un compliment, je suis comme « T'es allé voir Flo?
» J'adore ça! Hey, vous êtes vraiment beaucoup à réagir. J'adore. Manger du concombre, 90-95% d'eau. Hey, j'en ai mangé justement hier soir du concombre. Okay. Fait que tu vois... Je me suis peut-être, j'ai peut-être amélioré mon sort sans m'en rendre compte.
Là, je continue de faire docteur CV. Là,
ouais, vas-y.
Je suis pas docteur, juste le préciser pour des personnes qui pourraient pas voir le deuxième niveau. Mais ouais. Pourquoi les gens suent plus que d'autres? Là? Génétique, on n'est pas là-dedans parce que tu n'as pas toujours été là-dedans. Niveau d'entraînement physique, on tend ça aussi.
Oui, parce que c'est ça.
Là où il faut que peut-être tu te poses une question, là.
Ouais.
Stress et émotion et ou facteurs hormonaux, on revient à ça.
Ah, faut vraiment, je me pose une question, c'est facteur hormonaux. Faut d'ailleurs, ça me fait, j'ai me suis pris une note, faut que j'appelle ma médecin de famille la semaine prochaine pour un rendez-vous annuel.
Bon, prise de sang, etc.
Ouais, fait que j'ai pas le choix d'y parler
Bonne
de ça.
Bonne idée, ça.
Non, mais j'ai pas le choix d'y parler. Ben, je suis rendu à mon rendez-vous annuel, faut que je l'appelle. J'ai appelé la semaine dernière, mais on m'a dit pour le mois d'août, faut appeler à partir du 6 juillet. Donc, je me suis mis une note dans mon calendrier. Va falloir que je parle de ça. Va falloir que je parle du fait que là, crime, je fais du surplace puis je suis.
À grand goutte, à faire en sorte que ton vêtement qui était blanc devienne transparent.
Ben oui, tu sais, hier, là, je me suis levé du déjeuner, puis là, on s'en va marcher en amoureux, tu sais, main dans la main dans les Limoilou.
As-tu gardé ta main?
Puis là, on est tout heureux, puis là, elle met sa main dans mon dos, tu sais, puis m'a fait une petite caresse d'amoureuse. Et ta bardoche est tombée dans la flaque.
Ah,
c'est dit. Ah, non, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai dit, chérie, j'ai une petite caresse d'amour, ça sera tantôt. Mais là, ça sera tantôt quand? Je suis tout le temps.
Parle-en, j'aime ça, t'es avenant avec ta médecin.
Ben oui, il faut absolument que j'en parle avec ma médecin.
Quelqu'un qui dit, Pascal, attends d'être en périménopause, les fluctuations sont folles, une surprise n'attend pas l'autre. T'as Marie-Ève aussi qui dit périménopause et insuffisance rénale, mon chum passe au cash.
Oh non! Alors honnêtement, là, les femmes, je vous trouve bonnes, je vous trouve courageuses, parce que là, il y a... Peut-être... Puis le pire, c'est qu'hier, je suis resté positif toute la journée, mais je me disais... Ah, c'est fait que j'ai de la misère à m'endurer.
Ben c'est sûr, t'as chaud de même.
T'sais, pis là, j'étais avec ma blonde, c'est rare qu'on a une journée pas d'enfant.
T'sais,
là, à un moment donné, je serais pas celui qui va casser la journée, là.
Hey, tu t'en vas déjeuner, tu t'en vas pas au Costco un dimanche.
Non, c'est ça. Oui, pis t'sais, moi et Val, on s'entraîne, j'ai pas dit à Val, hey, on s'en va courir 12 km, là. Non, c'est elle qui me dit, hey, check, ça serait beau, on va aller manger là. Hein, bonne idée, chérie, on va aller déjeuner, t'sais. Pis Colin, je suis allé déjeuner, pis j'ai sué.
J'ai
sué comme un marathon.
Quelqu'un qui dit, je travaille à l'air clim. Dès que je bouge, je transpire comme un porc. Ma collègue a sa veste de polar sur le dos, elle, pendant ce temps-là. Hey, tu sais, Jeff, un autre texto. L'andropause pour les hommes, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça reste la même chose. Nous sommes tous les mêmes.
Nous sommes tous les mêmes. Et voilà. Ah, quel combat j'ai livré hier contre la chaleur. Mais ceci dit, je voudrais que le mois de juillet soit comme hier.
Avec
j'aime
plus de soleil.
Ça. Ah, que j'aime ça!
Parce que là, une canicule avec des nuages gris...
Brouillé comme aujourd'hui, là, c'est moins le fun.
Si j'ai le droit de choisir, un grand soleil.
Ah oui, j'aime ça, des journées comme hier, le soleil, la chaleur, le beau temps. Tout le monde est dehors, la vie est belle, il y a de l'enthousiasme.
Je me suis trouvé une nouvelle job.
Hein, vas-y donc!
Avec la canicule d'hier.
C'est quoi?
Mon chum est dans un genre d'immeuble à condo, puis il y a une piscine partagée.
Mm-hmm.
Fait qu'il y avait la gang de retraités, toi, chose.
Tes animaux?
Je peux être géo demain matin, c'est sûr.
Wow!
Là,
c'est dommage cool,
combien
ça?
Je devrais charger en dessous de la table pour, une activité d'une heure, mm-hmm. Tu penses? Combien?
Mais,
un genre d'aquaforme.
Un genre d'aquaforme, au moins 100
piastres. 100 piastres par personne pour une heure?
Non, pour le groupe.
Ça s'appelle de l'abus du vieillard,
pour
ça.
Pour le groupe. Moi, quand j'étais dans un immeuble à condo comme ça, moi, je suis le niaiseux qui lançait des ballons et faisait des niaiseries dans la piscine. Fait que je me mettais à animer les flots de tout le monde.
Gratuitement.
Tu sais, moi, j'étais dans la piscine, là, puis là, tu sais, mes enfants, les enfants à Val, puis 8 autres enfants étaient là.
Non, ils ont dû
puis
tellement
là,
pleurer quand t'es
parti. Guerre, puis tout le kit, puis avoir donc, puis là, les parents, eux autres, étaient sur le bord de la piscine avec leur drink, ils me regardaient, puis ils disaient, hey, qu'on est content que ce soit dans le condo, lui.
<C'est ça>.
Hey, à un moment donné, je déclare à pause bière, puis on me dit, oh, les enfants, fini, on va aller prendre une bière.
J'ai tout donné. Mais regarde, la morale de l'histoire, c'est hydratez-vous, parce que c'est peut-être ça aussi qui, hier, t'a manqué, là, un petit peu d'eau à travers ta sudation extrême. puis prenez soin de vous et des autres en canicule.
Ah, c'est ça, exactement. On n'a pas le choix. Hey, on a un beau show pour vous, guys, et ça va commencer dans quelques instants avec Agatha François Descroix qui va venir nous voir. Elle, Agatha, c'est une immigrante française et spécialiste en pédagogie pour l'INRS. On rouvre le PEC aujourd'hui.
Ouais.
Donc là, les gens peuvent déposer dans le PEC. Elle, elle s'est essayée au PSTQ, le programme pour les emplois spécialisés. Elle n'a pas scoré assez fort. Donc là, elle s'en veut et elle dit, bien, parfait, on rouvre le PEC. Citoyenne, établie ici depuis 2023, elle est là avec sa conjointe. Elle paye ses impôts, elle paye ses taxes, elle paye tout. Fait qu'elle s'en veut vers le PEC. Puis elle dit, bon, ben le PEC, vous allez me prendre. Vous rouvrez les demandes. Mais là, son employeur, il a dit, « Hey, écoute bien, toi, là, vu que tu ne rentres pas dans le PSTQ, c'est fini le 5 octobre. » Fait que vu que c'est fini le 5 octobre, elle s'en va vers le PEC. Le PEC dit, « Ben non, tu n'as pas de travail. »
La maison des fous d'Astérix et Obélix.
Ça n'a aucun sens. Non, elle n'est pas la seule.
On voit ça en actualité aujourd'hui, entre autres dans la presse.
Oui,
exactement. Il y a d'y parler.
Elle va venir nous parler en studio. Puis on va avoir également, vers à peu près 13h05, 13h10, Pascal. Je suis vraiment content. Tu sais la série d'articles qu'il y a eu dans le Journal de Québec? Avec les artistes qui en arrachent. Bien, on va parler avec Florence K. Pourquoi je voulais qu'on parle avec elle? C'est parce qu'elle est une artiste. Une très bonne artiste. Ma blonde ne voulait pas que je le dise en nombre, mais vu que là, elle est à l'entraînement, je vais le dire, c'est une des préférées à ma blonde. Fait que là, quand j'ai dit ça à Val, hier, elle a dit « Ah, oh, Florence K! » Ben, j'ai dit « Ça tombe bien, hein, l'entrevue, quand tu vas revenir de t'entraîner. » Mais elle est aussi psychologue. Pendant qu'elle est artiste, elle a fait son doctorat en psychologie. C'est pas magique, ça? Fait qu'elle va nous expliquer justement toutes les
deux côtés.
Oui, les deux côtés de la médaille. C'est ça que je voulais avoir. Je voulais pas avoir un artiste qui dit c'est trop difficile.
Ouais.
Puis je voulais pas avoir un artiste qui dit il faut qu'offre les autres chialent pour rien.
Ça fait quand même beaucoup réagir. Il y a plein de gens qui disent ouais, vous avez choisi ce métier-là qui est à risque, qui est précaire, qui est basé sur votre talent, oui, mais aussi malheureusement un peu d'être au bon endroit, peut-être la saveur du mot aussi pour réussir à faire de l'argent.
Exactement.
Puis il y a des gens qui ont très peu de compassion pour ces métiers-là où t'attends après le travail. Versus, écoute, du monde qui travaille à 70 heures semaine puis qui se disent si tu ne joins pas les deux bouts, change
c'est ça.
De job.
Fait que je veux qu'on s'inspire de l'histoire de Florence. Puis aussi, je vais lui poser la question, tu es où est-ce qu'elle se situe? Parce que moi, les artistes, honnêtement, je suis d'accord avec leur recommandation de dire, hey, les heures fantômes, il faudrait qu'ils soient reconnus pour que je puisse avoir de l'assurance-emploi. Parce qu'en effet, toi encore là, il faudrait se doter d'une certaine base pour savoir, bon, ben un texte de théâtre, ça te prend combien de temps à prendre? Ça prend combien d'heures? Mais en effet, ils travaillent quand ils font ça. Là. Ils sont pas sur le lieu de travail, non. Ils sont à la maison, mais ils travaillent.
Ben, comme nous, quand on suit l'actualité pour vous.
Mais c'est ça.
On est pas en onde, mais on est prêt pour être en
plein ça. C'est du télétravail, dans le fond, qu'ils font. Donc ça, je suis d'accord, mais je suis en désaccord, moi, avec le fait qu'on fasse comme exemple les Pays-Bas et qu'on leur crée une assurance-emploi spéciale pour eux autres. Parce que je me dis, tu sais... Même si je suis très pro-Québec, même si je suis très culture, j'écoute énormément de musique francophone, je me dis, un artiste, pas plus important que le gars qui vient de perdre sa job dans un shop de bois d'œufs parce qu'il y a des tarifs douaniers.
Puis vois-tu, moi, j'ai hâte de l'entendre là-dessus parce que je sais pas où je me place, contrairement à toi qui est quand même bon décidé dans ta façon de voir les choses. Parce que je me dis, hey, la culture, c'est tellement important. En pandémie, qu'est-ce qui nous a sauvés, c'est ça.
En effet.
Tout le monde se retournait un peu vers la musique, les spectacles, YouTube, les séries.
T'as raison.
Fait qu'il y a encore, moi, une opinion où je dois me situer.
Ah, exactement. Ben Florence va peut-être me convaincre du contraire aussi. Demande toujours à être convaincu. Avant tout ça, Pascal Sévin, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, 5 nouveaux cas de rougeole hein, dans Portneuf. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, ça gagne du terrain dans la grande région de Québec. On a annoncé ces infections-là cette semaine. C'est 7 cas de rougeole qui ont été répertoriés par la Direction de la santé publique de Santé Québec dans Capitale-Nationale jusqu'à Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Raymond. Je dois dire aussi qu'en relation avec ça, il y a l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières qui est fermée de nuit jusqu'à la mi-août. Donc, c'est toujours une nouvelle en santé cette fois-ci. On invite la population à se rendre à l'hôpital régional de Portneuf ou dans un autre établissement pour toute situation urgente. C'est pas une nouvelle qui est complètement... en relation avec ça, mais c'est une nouvelle de santé dans le même secteur. Christine Fréchette qui a confirmé qu'elle sera candidate dans Trois-Rivières. La rumeur courait, on en entendait parler tous les analystes politiques, mais là, c'est officiel. Donc, elle va tenter de succéder à l'ex-ministre Jean Boulet dans la circonscription de Trois-Rivières. Et c'est ce qu'elle a annoncé. Alors, elle se dit prête, elle se dit en forme, elle se présente dans Trois-Rivières, elle dit que c'est un retour à ses racines et c'est là qu'elle a grandi. Donc, pour ceux qui se disaient, ben, Trois-Rivières, c'est un rapport avec elle, oui. Elle dit « C'est là que j'ai appris à aimer le Québec, l'identité, la langue et la culture. On va suivre ça assurément encore plus cet automne. La Ville de Québec a planté près de 22 000 arbres sur les 30 000 qui ont été promis pour remplacer les 1 500 arbres qui seront abattus dans le cadre du projet de tramway. Annonce qui a été faite aujourd'hui, là, en fin de matinée, par l'administration Marchand. Donc, on veut célébrer tout ça et surtout souligner qu'on tient notre promesse. Hein. Ça, je pense que tous les partis politiques en ce moment veulent mettre de l'avant leur accomplissement et ce qu'ils ont
vraiment
fait. La Coupe du monde de soccer, Jeff, crée d'ambiguïté aussi pour l'entrée d'étrangers ici dans le pays. Le Canada qui a refusé l'entrée à près de 10 000 étrangers parce qu'on regarde, entre autres, là, le passé, fiche de ces gens-là. Mais on a fermé la porte à ces gens-là pour des raisons. Et celle qui m'a saisi le plus, c'est celle d'un joueur de soccer, OK? Puis c'est une bonne chose, on dit des fois qu'on vérifie pas assez, là. Mais c'est un cas particulier, celui de Thomas Partey, joueur de l'équipe nationale du Ghana, qui, l'entrée au pays a été refusée en raison d'accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il vise au Royaume-Uni. Donc, des décisions de refus aussi qui vont selon est-ce qu'il y a assez d'argent dans le compte de ces gens-là qui voudraient venir ici? Est-ce qu'ils vont être capables de subvenir à leur voyage et être capables de repartir chez eux? C'est souvent des choses qu'on voit, par contre, aussi à l'étranger. Vois-tu, je suis allée, moi, en Australie, là.
Oui.
Puis on demandait des informations sur mes comptes bancaires.
Hein, je savais pas ça, ça.
Pour être sûr que je reste pas pris sur l'île. C'est vraiment quelque chose qui est super important en Australie. Fait que c'est quelque chose aussi au Canada que, des fois, on vérifie dans les endroits
clairement
où c'est moins nant.
Puis je suis content de savoir qu'on fait la vérification, honnêtement, parce que il y avait plusieurs gens qui craignaient que cette Coupe du monde-là devienne une passoire au niveau des frontières.
Oui.
Surtout au Canada, parce qu'on est reconnu pour avoir un peu plus de laxisme qu'aux États-Unis.
Absolument.
Alors, très content qu'on fasse ces vérifications-là. Au sport, bien, vous mentionnez que le Canadien de Montréal a retenu les services à long terme d'Ivan Demidov. Ça s'est fait hier, un contrat de 8 ans où il va gagner 9,1 millions de dollars par année. Pascal, est-ce que tu sais au total combien de millions de dollars ont été distribués aux joueurs de la Ligue nationale hier?
Non.
950. C'est la période des signatures des agents libres. C'est 950 millions.
J'suis une industrie qui en manque pas d'argent.
Non, je suis un tripeux de sport, mais quand j'entends ces chiffres-là, je me dis toujours, tabarouette, les banques alimentaires sont pleines, puis eux autres, c'est 950 millions de dollars qu'on leur a distribués. Bon, c'est des entreprises privées, vous allez me dire, puis tout ça, puis en effet...
Puis les fans décident de mettre beaucoup d'argent aussi dans leur divertissement. Donc, peut-être que c'est encore d'encourager les gens à mettre de l'argent dans des banques alimentaires ou de l'aide au prochain, mais ça, c'est une industrie de, comment dire, un échappatoire aussi pour beaucoup. Hein.
Vraiment. Capitale de Québec, c'est une victoire hier éclatante de 18-3 après 4 défaites consécutives face aux Bombers de Schaumburg. Ils rejouent là-bas ce soir, mais sache que la Ville de Québec n'a pas encore réglé les lumières.
Pour le stade.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, la risée de la Ligue là, à cause de la Ville. Là. La Ville a dit « Ah, on check, mais on ne sait pas quand est-ce ça va être réparé. » C'est tough, hein,
on dit que tous les efforts sont faits.
Ouais.
Que le match peut avoir lieu de toute façon. Mais c'est pas garanti là, que le remplacement des lumières est couvert là, par cette garantie-là, justement.
C'est ça. Fait que tu sais, c'est bon. On doit être le seul stade au monde à avoir des luminaires.
Je sais pas si, mettons, j'allais remplacer, OK? D'une manière ou d'une autre.
Oh, ouais.
Mettons que je reçois une contravention, je suis accusé de je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a du monde qui va me défendre ou...
Oui, c'est ça.
Je pense qu'il y a du monde qui doivent commencer à penser à le faire eux-mêmes.
Là. Ah ouais, il y a du monde là, qui vont dire hey, c'est beau.
C'est au pire
là.
D'avoir un grief.
Ben, c'est ça. Tu sais, mon chum Jean-Simon, qui est super électricien pour boucher l'ortie, là. On pourrait se mettre des cagoules, comme ceux qui ont monté à l'Empire State Building. T'as-tu vu ça?
Oui.
La demande en mariage, tout. Ils ont mis ça sur les médias sociaux, ils ont été arrêtés.
Mais c'est sûr qu'elle a été arrêtée.
Mais bref, tout ça pour dire que moi et mon chum Jean-Simon, on va se mettre une cagoule à soir. Puis je vais dire à Jean-Simon, on le règle le problème.
L'affaire, c'est que ça devient un petit peu moins subtil en l'ayant dit en onde.
Ouais.
Fait qu'il faudrait passer l'idée à quelqu'un d'autre qui n'a pas été nommé en onde.
T'as raison. Fait que moi et Jean-Simon, on n'ira pas. Mais c'est un bon électricien qui veut mettre une cagoule à soir, je peux peut-être aller faire la ProTech en bas.
Et là, sachez qu'on fait des blagues. Hein,
ben oui. On fait des blagues.
Sérieusement.
Non, faut le dire, mais on rit vraiment là, présentement des malheureusement de la Ville de Québec en ce sens. Donc, à souhaiter que lorsque les capitales reviendront à domicile, les lumières tiennent. Et quand on en est rendu là, ça l'a. Aucun sens. On fait une courte pause et par la suite, justement, est pris dans le trafic présentement, mais ça en vient. Ça sera Agatha François Descroix qui va être avec nous, cette immigrante française et spécialiste en pédagogie. paye des taxes, des impôts depuis 2023, est bien établi à Québec, vole pas de logement à personne, pas d'enfant, fait que vole pas de place en CPE, vole pas de place d'école. Non, non, mais tu sais, on dit toujours ça, les immigrants, ils volent des places. Elle, elle vole pas de place. Elle fait juste fleurir la ville de Québec, installée dans Limoilou, une bonne job, t'sais, consomme local. Ben, on va y dire, ciao, bye, ma fille, parle français. Française, parle français,
on
parle bien le
pec,
français.
Puis il y a des nouveaux problèmes.
C'est ça, on va y dire, ciao, bye, ma fille, t'es pas assez bonne. C'est ce qu'on va jaser après cette courte pause à l'émission d'En Jase à Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14. Pas besoin de casque, c'est pas loin. Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. À VTT, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Garde ta passion en vie. Un message du gouvernement du Québec.
Le solde du déménagement de Wayfair est en cours et obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre nouvel espace votre chez-vous. Profitez du solde du déménagement de Wayfair jusqu'au 6 juillet sur wayfair.ca.
102.1. Chaque message publicitaire que vous entendez à Boulevard 102.1 représente bien plus qu'une simple annonce.
Derrière ces messages, il y a des entreprises d'ici qui investissent dans notre milieu,
créent des emplois et contribuent à la vitalité économique de la grande région de Québec.
Encourager les clients de Boulevard 102.1, c'est de poser un geste concret d'achat local.
Merci d'encourager nos clients. Merci d'encourager l'achat local. Merci d'encourager Boulevard 102.1.
Tu fais du commercial, mais t'es tanné de jouer petit? Télio Assurance cherche un courtier producteur en assurance entreprise. Ici, tu bâtis, tu développes, tu performes. Ton portefeuille, tes clients, ton impact. T'as de l'expérience, de la drive et t'aimes sortir du lot? Parfait! Télio veut te parler. Équipe solide, support réel, croissance concrète. Travail flexible, bureau Québec ou Lévis. Prêt à passer au prochain niveau? Écris-nous à rhacommercialtelioassure.com.
Pour un été magique en famille, rendez-vous chez BeFly Québec, maintenant ouvert au 6525 Boulevard de l'Ornière. Plongez dans un monde fantastique entouré de centaines de papillons en liberté aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec un mini-golf unique, un module de jeu géant et un labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale qui émerveillera petits et grands. Réservez votre visite au bfly.ca.
Oui? Chez la branche, proche des fils.
Oui?
Il y a des pros qui vont venir la couper aujourd'hui.
Bon.
Oh, allô?
Bravo, M. Dubé.
Hein?
OK, go!
C'est qui, ça?
Hydro-Québec, monsieur.
Rester à plus de 3 mètres des fils électriques pour rester en vie, ça mérite des félicitations.
Réserver le camion, magasiner les électros, transférer mon dossier de pharmacie, classer les jouets de Léo, l'inscrire...
Julien.
Oui?
Commencez par votre transfert de dossier de pharmacie affilié à Brunet. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. En plus, avec nos 30 succursales à Québec, on est à quelques rues de votre nouveau chez vous. Vous pourrez cocher ça de votre liste. Puis on aime ça, cocher des choses de notre liste.
Tellement.
Brunet, on se connaît.
C'est donc vrai que tout est plus simple quand on se connaît.
Ce service est offert par vos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet.
La météo du jour, présentée par Chaloux. Aujourd'hui, ça sent le soleil, les amis, puis les soirées qui finissent tard. Chaloux, à Saint-Émile, Beauport et Sainte-Cathe.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. 100% parler tout l'été.
Et oui, 100% parler tout l'été. Pour le reste de la semaine et la semaine prochaine, Jeff Fortin, Pascal CV. Par la suite, vous allez avoir un petit 3 semaines avec un mix point de max on en jase. Ce sera Pascal CV et Mathias Turcotte de 11h à 14h.
Oui, chef.
Qui auront le bonheur d'être avec vous. Et à partir du 3 août, je reviens, ce sera Mathias Turcotte qui va être avec moi pour la semaine du 3 août. Donc, Pascal va être avec moi le matin avec Alex Laramain.
On va se réveiller tôt.
Ça va être le fun, ça. J'ai hâte de travailler
ben
avec
oui.
Le collègue Alex Laramain. Va être là tantôt, justement, pour nous parler des agents libres au hockey, ses signatures, ses transactions hier. Journée folle, j'en parlais avant la pause. 950 millions de dollars qui a été dépensé par les équipes de la Ligue nationale de hockey. Pour nous écouter sur la route, la meilleure façon... C'est notre application BLVD 101 disponible sur App Store, Google Play Store. Vous avez également la web radio disponible au blvd.fm. Si vous êtes à la maison, une petite journée de chaleur, là, vous êtes en dedans, l'air climatique, vous êtes à votre haut-parleur intelligent, écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. À la météo, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud comme dans le temps piment fort, mais c'est 31 degrés, 40 % de possibilité d'averse pour aujourd'hui. Même principe pour demain, mais les possibilités d'averse sont à 30 % mais c'est 31 degrés. Full soleil ce week-end avec 25 degrés pour samedi, 27 degrés pour dimanche. Je vous rappelle justement cette veille, on est en alerte jaune pour des orages violents qui pourraient avoir lieu là, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, soyez attentifs. Puis également, avertissement de chaleur parce qu'avec l'humidex, ça monte jusqu'à 40 degrés. Alors, buvez de l'eau, soyez prudents. Puis essayez de ne pas trop suer comme j'ai sué hier dans le quartier Limoilou. En attente, justement, de Mme Agatha François Descroix, qui était dans le trafic, on va aller faire notre chronique politique et économique avec Lani Dufour, qui est avec nous. Lani, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Lani, on écoute Christine Fréchette à Trois-Rivières tout à l'heure.
Mais il y a quelque chose de profondément significatif dans le fait de revenir là où tout a commencé, pour offrir à sa communauté ce que l'on a appris tout au long du chemin. C'est donc avec beaucoup d'émotion, de fierté, puis un très grand sens des responsabilités que j'annonce mon intention de me présenter comme candidate députée dans le comté de Trois-Rivières.
Lani, retour à la maison souhaité par Christine Fréchette avec le départ de Jean Boulay ou, comme le dit le candidat du PQ dans Sanguinet, elle se sauve d'une défaite assurée?
Je pense pas qu'elle se sauve d'une défaite assurée parce que quand on regarde Québec 125, elle était quand même bien positionnée pour un parti. T'sais, oui, c'est en déclin, mais elle restait première quand même dans les sondages dans Sanguinet. Trois-Rivières, ça reste que là, les dernières données montraient des statistiques basées sur le fait que c'était Jean Boulay qui était là, mais quand même, on a une circonscription qui n'est pas gagnée d'avance, qui, avant les deux derniers mandats, n'était pas favorable nécessairement à la CAQ. T'sais, on a de la misère un peu à savoir c'est qui maintenant l'électorat caquiste. Est-ce que c'est les couronnes? Ben là, on quitte les couronnes. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment les régions? Je pense que l'élection qu'on va avoir à l'automne va vraiment montrer cette troisième voie-là ressemble à quoi? Parce que il y a beaucoup de volatilité en ce moment dans les indécis, puis je pense qu'on ne peut vraiment pas prédire ce qui va se passer à l'automne prochain. Puis Trois-Rivières, ça ne veut pas dire que Mme Fréchette, même si elle est chef, c'est sûr que ça a l'avantage parce qu'on le sait, elle a une énorme visibilité grâce à ça. Est-ce que ça lui garantit une victoire? Je ne suis pas prête à dire ça, puis surtout pas que ça va être plus facile que dans Sanguinet.
En effet, je suis d'accord, je partage ton opinion. Hey, on a vu le mari de Christine Fréchette prendre la parole avant qu'elle prenne la parole. Il a vanté les mérites de sa conjointe. Il est avec depuis une dizaine d'années. Tout le travail qu'elle a accompli pour se rendre là, le travail qu'elle fait en tant que première ministre. Il l'a même appelé notre première ministre. Par le passé, on a vu plusieurs femmes s'impliquer justement dans la campagne du chef ou d'un premier ministre, surtout pour dans le comté actuel. Je vais te poser une question bien bête, là, puis sûrement bien sexiste, là, mais ça va-tu faire la job, un gars qui va aller cogner aux portes à la place de sa femme versus une femme qui arrive avec un... T'as un aura, je pense à la femme à Pierre Poilievre, par exemple, qui arrive avec un aura, qui arrive avec une belle personnalité. Est-ce que ça fait plus une différence, là, je sais que je vais aller sur le genre, là, mais ça fait-tu plus une différence, une conjointe qui s'en va à rencontrer les gens qu'un conjoint?
Pour vrai, on dirait qu'au Québec, ça a peut-être moins d'incidence qu'au fédéral, là, qu'on dit la première dame ou le premier homme, là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus loin de nous. Est-ce que ça peut l'avantager, la désavantager? Moi, je vois juste quelque chose qui est quand même très beau. Elle est émotive quand elle en parle. Il a pris un congé sans solde pour venir l'aider dans cette aventure-là de devenir première ministre, mais aussi d'aller faire une campagne. Puis je trouve ça beau, le fait que justement, ce soit un homme qui met sa vie sur pause, chose qu'on voit souvent dans un couple où est-ce que la femme décide de faire ça, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour la carrière de son mari. Donc ça, je le salue. Puis comme je disais, ben tu sais, on la sent émotive quand elle en parle parce que justement, tu sais, t'as besoin, quand tu vis cette aventure-là, ça a un impact sur la famille, sur le conjoint, d'un allié puis de quelqu'un qui te supporte. Fait qu'est-ce que, tu sais, au niveau des votes, au niveau de la politique en soi, ça peut vraiment changer quelque chose. Je l'analyserais plus du fait que, hey, on est rendu ailleurs, puis je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait d'abord une femme première ministre, mais aussi que le mari s'implique à travers tout ça, parce que des bénévoles, on n'en manque jamais.
En effet, je rejoins ton point de vue, évidemment. Samuel Poulain avec Christine Fréchette ce matin fait une annonce concernant des quartiers avec des maisons à 350 000 $ et moins. On écoute justement un résumé de Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales.
Donc, ce que nous avons annoncé aujourd'hui, ce sont des quartiers d'accès à la propriété. Donc, le gouvernement du Québec va venir financer jusqu'à 80 % en subvention, en infrastructure, en eau, pour pouvoir permettre le développement de ces quartiers-là, à condition que les maisons soient vendues en bas de 350 000 $ pour deux chambres. Alors, ce qui veut dire que le préfabriqué peut effectivement être une alternative fort importante.
Ça fait partie de la série d'annonces de la CAQ. On dit qu'on va pouvoir lancer ça immédiatement. Il y a déjà plusieurs municipalités, une trentaine, qui ont levé la main, dont des municipalités en Beauce, ici, dans la région de Québec. Yannick Marceau, notre animateur du matin, posait une bonne question ce matin, puis je ne sais pas si tu le sais. Est-ce que les gens qui vont acheter ces maisons-là, après un an, ils vont pouvoir leur vendre 450 000, 500 000, puis il va avoir comme ça du flip immobilier?
Je ne sais pas si on va mettre des critères pour rester justement dans la maison, mais après un an, justement, est-ce qu'on aura autant de prise de valeur? Ça reste à voir, mais
il y a les pénalités de la banque aussi.
C'est ça, tu sais. Est-ce qu'on veut faire ça pour que les gens puissent se mettre de l'argent dans les poches? C'est vraiment pas l'objectif. On est dans une suite logique pour Samuel Poulain parce que c'est mini-maison, puis c'est son préfabriqué. Ça a déjà été annoncé dans les dernières semaines. Là, l'aspect qui est différent, puis je vous amène là-dessus, c'est que on coche des cases parce qu'on est un peu en course contre la montre avec le gouvernement parce qu'en ce moment, on fait des annonces gouvernementales, donc il y a de l'argent associé. Mais quand on va arriver en campagne, là, on va tomber au même niveau que les autres partis d'opposition, donc en mode engagement, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je veux faire pour la suite. Et il y avait beaucoup de nœuds avec Ottawa, notamment avec le transfert. Là, ça s'est rendu possible parce qu'il y a eu un transfert d'1 milliard du fédéral. Même chose avec des annonces qu'on a eues aujourd'hui du côté de Drainville. Il y a de l'argent du fédéral. Il restait des choses à attacher qui étaient en suspens. Et Mme Fréchette, tout à son honneur, réussit à débloquer des choses avec le fédéral qui permet de faire cette série d'annonces-là dans laquelle elle est embarquée depuis plusieurs semaines déjà.
Débat dans la capitale nationale, ça fait la manchette depuis une semaine et demie, depuis qu'Éric Duhaime a amené ça sur la table. Tous les chefs de parti ont demandé un débat dans la capitale nationale. Là, Éric Duhaime, il va d'une pétition pour forcer la main de Radio-Canada. Tu es à l'extérieur de la capitale nationale, tu es souvent à Québec, mais tu résides à l'extérieur de la capitale nationale. Je veux avoir ton avis de quelqu'un de l'extérieur. On se regarde trop de nombril et on se trouve trop bon à Québec parce que moi, j'en veux absolument un ou on a raison de le vouloir?
Écoute, les partis des oppositions puis le gouvernement, tout ça, tous les partis ont donné l'aval à Éric Duhaime dans cette pétition-là. Donc, je pense qu'ils s'entendent tous pour dire que ils sont d'accord avec le fait de tenir un débat à Québec, considérant que Radio-Canada, c'est le diffuseur public. Je pense qu'il y a une raison d'être de cette demande-là. Est-ce que ça va avoir une incidence sur des gens comme moi et même les gens de Québec? Pas du tout. Les gens vont regarder le débat à la télé. Fait que le fait qu'il se fasse à Québec ou à Montréal, on va le regarder dans notre salon. Mais, comme je vous dis, c'est un symbole où est-ce que la capitale nationale, c'est Québec, et il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on a tenu des activités de la part du gouvernement, on a reçu des dignitaires, puis ça s'est fait à Montréal. Bruno Marchand l'a décrié souvent. Donc, le fait de tenir ce débat-là, il est bien sûr symbolique. Et tu as M. Duhaime qui, lui, pousse pour ça parce que c'est dans son intérêt aussi, ce qui est fort à Québec, puis dans Chaudière-Appalaches.
Bien, Jeff et moi, on a une question qu'on aime poser parce qu'on se rend compte à quel point les partis politiques en ce moment font presque de la capitale nationale une obsession.
Ben
là,
oui.
Comme
oui.
Jamais, c'est important.
Bien, il y a des courses à 4, il y a des courses à 3 dans à peu près tous les comtés, là, à Québec et Chaudière-Appalaches.
Est-ce que c'est la seule façon de l'expliquer en ce moment, Lani?
Bien, c'est sûr que c'est des raisons politiques là, qui sont derrière ça. S'il n'y avait pas... Je dirais, la campagne va se gagner en dehors de Montréal, donc de venir symboliquement choisir la capitale nationale et tout ce qui est environnant. Même chose avec le choix de Mme Fréchette de s'en aller à Trois-Rivières. On veut sortir de cette dynamique-là où est-ce que le gouvernement a été très montréalo-centré. Est-ce que ça devient une obsession? Je sais pas, mais c'est sûr que quand tu as autant de partis en liste dans une élection, ça amène une confrontation qui est peut-être plus grande parce qu'on vient vraiment diluer les intentions de vote, là, parce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on a deux meneurs. Là, quand tu arrives, que c'est des courses à quatre, ben, il faut que tu tires ton épingle du jeu. Est-ce que ça, c'est une façon de réussir à le faire? Comme je vous dis, ça reste que c'est symbolique dans le cas d'un débat parce que on n'aura pas nécessairement l'incidence, mais un parti n'aurait pas pu dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord, il faut que ça se fasse à Montréal. » Ce serait un suicide politique de faire ça. Donc, c'est sûr que tout le monde doit approuver puis être d'accord. Le fait que Duhaime devient un cheval de bataille avec ce sujet-là, ben c'est vraiment parce que ça a une incidence pour lui de dire « J'ai réussi, j'ai gagné mon bout, j'ai tenu tête à la société d'État qu'est Radio-Canada. »
Alors, est-ce que c'est pas opportuniste et non sincère de la part des partis politiques actuellement de parler autant de la capitale nationale?
Ça peut tomber après. À être opportuniste.
Ça peut tomber après les élections.
Ben écoute, j'espère que ça va rester parce que ça reste que la capitale nationale, on doit en être fier, puis ça doit être un symbole. Est-ce que après coup, ça se peut qu'on en entende moins parler puis que les investissements soient plus dans d'autres endroits? Évidemment, là, tu sais, une fois qu'on gouverne, on n'est plus du tout dans le contexte de campagne électorale, mais être opportuniste en politique, c'est tout à fait normal. C'est pas quelque chose qui est mal. Il faut juste être, je dirais, authentique à travers tout ça puis être cohérent. Parce que si t'es opportuniste puis que tu vas de tout bord, de tout côté puis que tu fais un peu la girouette, dès que t'as une occasion devant toi, tu la saisis, ben là, tu vas perdre les gens. C'est là où tu seras plus crédible. Mais si tu choisis une opportunité comme celle-là puis t'en fais un cheval de bataille parce que tu le sais que ça a une valeur puis que tu peux avoir des gains, moi, j'ai pas de problème avec ça.
L'année, je termine avec l'ACEUM. Bon, sans surprise, Donald Trump relance les négociations autour de l'ACEUM en ne se positionnant pas pour le renouvellement de cette entente-là économique. Mm-hmm. Ce matin, la ministre Mélanie Joly a annoncé justement un 12,5 millions pour une entreprise en acier, groupe ATF, qui est située à Terrebonne, qui investit 52,3 millions de dollars dans sa mise à niveau. Est-ce que c'est le genre d'aide gouvernementale qu'on va devoir faire autant pour l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre d'ici à ce qu'on règle le tout?
Écoute, comme on dit, sans surprise pour le non-renouvellement, mais ça reste que, même s'ils refusent, on a quand même un 10 ans de sursis, là, où est-ce que l'accord actuel reste en vigueur. Donc, est-ce que dans les prochains jours, prochains mois, on va voir une grosse différence? Pas vraiment pour les entreprises. On était déjà dans ce contexte-là, plus d'incertitude. C'est sûr que ça peut amener des choix politiques, des choix d'affaires aussi, d'entreprises qui décideraient même d'aller s'établir ailleurs, notamment aux États-Unis, pour éviter de payer des frais, mais est-ce que drastiquement le fait qu'on dise « OK, le 1er juillet est arrivé, il n'y a pas de renouvellement de l'entente, on tombe en négociation », ça va avoir une grosse incidence, pas pour l'instant. Par contre, c'est sûr que tant que Trump sera là, il y aura une incertitude qui plane, puis il a toujours réussi à imposer des tarifs sur l'acier, sur le bois, en contournant l'accord de libre-échange. Ça nous a protégés quand même d'une certaine façon, mais il a quand même réussi via des mesures de sécurité frontière et tout, là, à en imposer. Donc, pour l'annonce que Mélanie Joly a fait avec le gouvernement du Québec, justement pour la productivité, avoir une meilleure chaîne d'approvisionnement dans ce secteur-là, c'est bien. On peut pas dire que ça va avoir une incidence négative, puis ça nous permet d'être beaucoup plus autonomes dans nos secteurs clés en termes de manufacturier parce qu'on a des énormes chantiers, notamment avec Hydro-Québec. On a besoin de s'approvisionner. Puis là, en ce moment, l'acier ne vient pas d'ici. Tant mieux si on réussit à faire ça. Mais est-ce que, par rapport à la négociation avec Trump, ça va changer quelque chose? Pas nécessairement.
Lanny Dufour, c'est toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite des bonnes vacances. Amuse-toi bien pour tes vacances. Et puis, on se reparle prochainement.
On se reparle bientôt. Bye.
Salut! Lanny Dufour, chroniqueuse politique économique pour nous à Boulevard 102.1. Également, Lanny est également directrice adjointe aux affaires gouvernementales chez Catapulte Communication.
Ça me fait rire quand on parle d'opportunisme en politique parce qu'effectivement, ça en fait partie hein, de ces stratégies-là politiques. Mais ironiquement, c'est un peu ce dont les gens sont tannés.
Ben oui.
Fait que je ne sais pas à quel moment on va en sortir assez pour pas tanner les gens puis gagner une crédibilité à nouveau. Mais en même temps, oui, user de de cette stratégie-là pour se faire élire?
Bah, c'est clair que pour ce qui est de la capitale nationale, il y a un opportuniste. Puis je pense qu'Éric Duhaime a bien joué la carte de le sortir en premier. Là, ça, faut que je lui donne. Mais pour le reste, tout le monde cherche à se démarquer. Tu sais, on a fait Charles Milliard mardi en entrevue. Ouais, mais il faudra un thème capitale nationale. Fait que là, j'ai hâte de voir qui va rajouter quelque chose jusqu'à temps que le gâteau de mariage monte de plein d'étages. Là, le mariage avec la capitale nationale. Mais oui, j'ai clairement hâte. Puis t'es pareil comme la CAQ. Là, faut être en voie de se poser la question. Ben pourquoi vous ne l'avez pas fait dans vos 8 ans au pouvoir? T'es là, dernière minute, à matin, on débloque 215 millions pour les infrastructures en eau, des municipalités qui vont construire des quartiers de maisons préfabriquées à 350 000 et moins. Hello, la crise du logement existe depuis la COVID?
C'est maintenant.
C'est ça, c'est
on
maintenant.
En parle,
là, en juin.
Ah, puis encore là, c'est pas fait pareil.
Non, c'est ça.
Parce que, tu sais, on peut bien dire qu'on veut faire ce projet-là, mais les élections s'en viennent, puis ça peut être avorté aussi.
Oui, on a en mémoire un certain troisième lien à
Québec. Oui, c'est un bon...
Juste en mémoire, comme ça.
C'est une bonne idée de le rappeler.
Courte pause à Boulevard Sandeau à l'émission Nageuse. On revient par la suite. On va parler notamment avec Agatha François Descroix. Elle est à Québec depuis 2023. Elle a un excellent emploi. Elle a sa maison. Elle paye des taxes. Elle paye des impôts. Puis le gouvernement... Elle parle français. Puis le gouvernement, il dit... Ciao, bye. On n'a plus besoin de toi.
Jusqu'à 14 ans. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase 100% parler tout l'été.
Et oui, 100% parler. Vous venez d'entendre également dans la publicité notre horaire estival, notre horaire à l'année également, c'est-à-dire avec Marceau le matin, le point de max, on en jase, et le retour. En passant, vous avez un retour encore une fois avec Nathan Meilleur, Antonine Iaccarini et Véronique Bergeron tout à l'heure de 14h à 18h. Et pour Marceau le soir, ça sera avec la collègue Emmanuelle Latraverse.
Oui.
Ça va être très intéressant. Emmanuelle qui va être avec nous demain également aux alentours de 12h05. Donc, à ne pas manquer Marceau le soir, ce soir à 18h. Pascal, avant qu'on parle de ces problèmes d'immigration qui n'en finissent plus, on dirait que la CAQ n'est pas capable de régler un problème si simple, c'est-à-dire d'accorder la citoyenneté aux gens qui sont sur notre territoire, qui travaillent, qui payent leurs taxes puis leurs impôts. Me semble c'est juste logique, qui parlent français. Mais bon, ça a l'air que c'est trop compliqué pour la CAQ. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, les trois manchettes principales?
Écoute, je suis contrevenante, là. Je vais y aller en rafale, mais avec une coupe de nouvelles. Hey. Je vais en glisser une assez festive. Tiens.
Vas-y.
Là, ça colle, c'est la canicule, on est au courant.
Vas-y.
On est aussi au courant qu'à partir d'hier, c'était la nouvelle grille tarifaire du RTC qui est entrée en vigueur. Donc,
hey, c'est rendu 4 piastres unitaires.
Je savais que ça allait être arrivé.
Mais ça n'a pas de sens.
Oui, et c'est gelé. Hein?
C'est un transport en commun. Là. À un moment donné, il faut vraiment se poser la question. C'est rendu 4 piastres unitaires puis on est en déficit de 30 millions. Il y a de quoi qui fonctionne vraiment pas. On pourra en parler plus en détail un jour. Mais là, à un moment donné, il va falloir faire ces changements-là au RTC qu'on attend depuis belle lurette, notamment depuis qu'on s'est classé 9e sur 10 dans un audit de performance.
Christine Fréchette qui a confirmé qu'elle sera candidate dans Trois-Rivières. Ça s'est fait aujourd'hui aussi, donc, pour les élections québécoises. Elle va succéder à l'ex-ministre Jean Boulet dans cette circonscription-là, qui est en fait là où elle a passé toute sa jeunesse, en retour à ses racines. C'est là qu'elle a grandi. Elle dit que c'est là qu'elle a appris à aimer le Québec, l'identité, la langue, la culture. 5 nouveaux cas de rougeole dans Portneuf, ça s'est confirmé, alors il faut se surveiller. La Ville de Québec a déjà planté près de 22 000 arbres sur les 30 000 qui ont été promis aussi, Jeff, pour remplacer les 1 500 qui seront abattus dans le cadre du projet de tramway. Et je voulais souligner 40 millions de dollars remportés par un couple de la Montérégie aux gagnants du Loto Max. C'est ces deux-là qu'on nomme et qu'on souligne. Donc, un jeune couple de Sorel-Tracy qui risque de pouvoir réaliser certains rêves.
Oui, en effet, un beau rêve, justement, qu'ils vont réaliser. On est avec Agatha François Descroix, immigrante française et spécialiste pédagogique pour l'INRS. Elle est avec nous en studio. Elle a des problèmes avec l'immigration. Madame François Descroix, ça va bien?
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Bon, on va mettre les choses au clair. Vous n'avez pas d'enfant, je pense?
Non.
Donc, vous ne volez pas de place en CPE?
Non.
Vous ne volez pas de place dans les écoles? On est correct?
Je n'ai qu'un chat.
Vous avez juste un chat? Parfait. Vous payez vos taxes?
Oui.
Vous payez vos impôts?
Oui.
On l'entend, vous parlez bien français?
Oui.
Bon. Ben, pourquoi le gouvernement ne veut pas de vous?
Eh bien, justement, je me demande. Je me demande, je suis arrivée sur le territoire dans le cadre d'un permis conjoint de fait avec mon ex-conjointe. Donc, c'était un permis ouvert de 3 ans, puis un Le sien, c'est un permis fermé. Donc, on nous a dit, oui, ben, de toute façon, vous allez voir avec le PEQ, cumuler 24 mois avec employeur québécois. Donc, je me suis vraiment dépêchée pour avoir un premier emploi. Puis, j'ai attendu mon évaluation comparative des diplômes pour avoir l'emploi de mes rêves. Et j'ai décroché l'emploi de mes rêves en 2025. Puis en 2025, après beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à m'intégrer, donc j'ai fait du bénévolat, je suis allée vers les gens, je me suis vraiment immergée dans la culture québécoise. Ben, tout s'est débloqué. Tout s'est débloqué. J'ai eu la job de rêve. J'ai fait la rencontre de ma conjointe au courant de l'année 2025. J'ai trouvé l'appart de mes rêves. Enfin bref, et ma ligue de roller derby, parce que je suis une joueuse de roller derby aussi. Donc, c'était la
c'était
vie
très
rêvée.
Bien intégré. Là.
Exactement. Oui, c'est ça, on s'entend.
On te demandait de t'intégrer, surtout au niveau économique, donc en travaillant, en contribuant à la phase économique du Québec.
Exactement.
Chose qui a été faite.
Exactement.
Parlez-moi de votre emploi. Conseillère, spécialiste pédagogique pour l'INRS, c'est quoi cet emploi-là? Ça m'intéresse.
Oh, c'est le meilleur emploi du monde pour moi. C'est,
ben non, moi, je pense que c'est la radio.
Non. Pas pour moi. C'est juste l'emploi de mes rêves. C'est dans l'éducation, donc dans l'éducation supérieure. Je travaille dans un institut de recherche scientifique qui fonctionne comme une université, qui fait partie de l'université, du réseau d'université de l'UQ. Puis, ma job, c'est technopédagogie, donc les outils pédagogiques au niveau numérique. C'est le conseil pédagogique pour les professeurs, donc les aider un petit peu dans leur dans leurs évaluations, dans les cours éventuellement, dans leur encadrement. C'est plein de choses. C'est créer du contenu pédagogique, créer des formations. Donc moi, comme je dis, ma job, c'est juste créer, communiquer, apprendre. C'est tout moi.
Donc, c'est un emploi très spécialisé que je vois très utile pour la communauté universitaire, donc la communauté d'enseignement supérieur. Pourquoi vous ne qualifiez pas dans le programme d'emploi spécialisé, le PSTQ?
Ben parce que malheureusement, dans le cadre du recrutement des spécialistes en pédagogie, l'annonce pour l'offre d'emploi de spécialistes en pédagogie avait été considérablement écrémée pour pouvoir ouvrir l'éventail des personnes, des candidats. Il y avait très peu de candidats au départ. Puis le jour où j'ai candidaté, ben, il y en avait beaucoup plus. Et malheureusement, avec cette description plutôt large de l'emploi, un candidat ou une candidate québécoise pourrait appliquer et avoir mon travail.
Donc, ce que je comprends, c'est parce que, puis Pascal, c'est ça que je trouve capoté, OK? Parce qu'on a fait un affichage plus large en se disant, bon, on va ratisser large, on va faire des entrevues, puis on va aller chercher la personne la plus spécialisée. On regarde pas la spécialité de votre emploi, on regarde l'affichage, c'est ça
que
je comprends?
Parce que j'ai un poste syndiqué,
OK, donc, là, malheureusement... je ne change pas assis.
Admettons que vous n'êtes plus à l'emploi, est-ce qu'il comble facilement votre emploi?
Pardon?
Admettons que vous n'êtes plus à l'emploi, est-ce qu'un Québécois comble facilement et rapidement votre emploi?
Bien, c'est ce que l'IRCC dira.
OK.
Alors, c'est sûr qu'après... Faut voir dans l'emploi.
On va parler de votre profil personnel. Du jour au lendemain, on vous dit, on va prioriser quelqu'un d'ici et non en processus d'immigration complète. Est-ce que vous voulez travailler dans autre chose? Est-ce que vous travaillez dans autre chose?
Non, moi, je veux juste travailler là où je suis. J'adore mon université, j'adore mon équipe. Dès le premier jour, je suis arrivée, j'ai dit là, je suis sur mon X.
C'est ça.
C'est ma job de rêve.
Là, l'autre chose que je comprends pas, c'est que le gouvernement, avec François Bonnardel qui est devenu ministre de l'Immigration, avec Christine Fréchette qui est devenue première ministre, on dit « Inquiétez-vous pas, on rouvre le PEC pour 2 ans ». Donc là, pourquoi vous qualifiez pas dans le PEC?
Ah, ça c'est vraiment une aberration à mon sens. Moi déjà, j'ai fait confiance à M. Roberge qui avait dit, si vous vous rappelez, fin 2025, « Ne vous inquiétez pas, on congèle le PEC, mais les gens qui sont déjà en emploi, qui sont déjà francisés, qui sont surtout en dehors de Montréal, ne vous inquiétez pas. »
Ce que vous êtes, là.
Voilà, exactement. Donc, au final, il a enlevé le PEC, je me suis ruée sur le PSTQ. Évidemment, je ne suis pas... Je qualifie pas assez pour le PSTQ.
Puis là, on comprend, malheureusement, l'affichage était trop large.
Là, c'est pour le coup que ma conjointe n'est pas immigrante comme moi, donc je n'ai pas les points suffisants pour appliquer au PSTQ.
OK, attendez. Si au PSTQ, vous étiez avec une conjointe immigrante, vous auriez assez de points.
Oui, exactement.
Ça donc, ça, c'est pas ouais, d'allure. C'est, voilà. Donc, après... Non, non, mais c'est ça. Mais y a-tu quelqu'un qui peut réveiller à CAQ, s'il vous plaît? Toc, toc, toc.
Mais je pense qu'ils sont peut-être pas conscients de. Tu sais, j'ai l'impression, je me dis, ils regardent pas les dossiers. Ça doit être beaucoup trop ardu de le faire, rendu là, parce que c'est un peu aberrant dans cette situation.
Ben oui, mais là, Caroline, on paye du monde, faut payer du monde pour regarder ça.
Ils font quoi? Est-ce que c'est des numéros, les dossiers? Est-ce qu'on est vraiment en train de choisir la meilleure façon de procéder selon les meilleurs papiers et candidats qu'on a devant nous?
C'est clairement des numéros. Puis moi, je me disais, le PEC va revenir. On nous a... l'espoir a été amené avec Mme Fréchette, qui a dit... Le PEC va revenir. Moi, je vais réouvrir le PEC. Elle n'a pas dit « je vais réouvrir le PEC par vague », en prenant d'abord une première vague. Et puis, si jamais les quotas ne sont pas atteints, on prendra peut-être une deuxième vague en 2027.
Parce que là, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle.
Donc, moi, je n'applique pas parce que je n'étais pas admissible au PEC le 19 novembre 2020. J'étais admissible au PEC le 5 mars 2026.
Alors là, vous ne pouvez pas appliquer dans la première vague.
Pour 4 mois.
Vous pourriez appliquer dans la deuxième.
Oui, mais je n'aurais plus d'emploi.
Bien, c'est ça que je comprenais. Là, compte tenu que vous n'avez plus d'emploi parce que vous ne qualifiez pas dans le PSTQ, puis vous ne qualifiez pas dans le PSTQ parce que l'affichage a été trop large, puis que votre conjoint ne venait pas de l'extérieur.
Oui, c'est ça.
Là, vous pourriez rentrer dans le PEC, vous allez avoir perdu votre emploi, fait que vous retrouvez le bec à l'eau.
C'est ça.
Ça n'a-tu pas de sens, Pascal?
Oui, c'est un peu la maison des fous parce que
c'est capoté.
C'est des gens qui sont motivés à être ici, qui sont intégrés.
C'est ça.
Puis qui finalement se ramassent tout le temps en deux cracks, là, vraiment deux chaises, là, puis ils ne sont pas capables de faire valoir leur dossier. Pendant ce temps-là, le temps s'écoule. Puis la ligne d'arrivée, c'est de retourner dans votre pays. Là.
Et en fait, le temps qui s'écoule, c'est vraiment un. C'est vraiment un gros défi. Je vais parler pour ma voisine qui m'a donné son consentement justement pour que je parle de son histoire, qui est infirmière clinicienne justement et qui a été pigée au PSTQ en janvier de cette année. Après avoir
elle est
été...
infirmière clinicienne?
Oui.
Okay. Elle est dans un domaine où on a besoin énormément de gens.
Oui, exactement.
Oui, clairement, on a besoin du médical. Ouais. Donc, malheureusement, son employeur lui a dit, en fait, ça nous coûte plus cher de vous faire un permis fermé. Donc, on va reprendre d'autres immigrants travailleurs temporaires de l'extérieur pour les faire venir ici.
Qui n'ont pas connu encore le plancher des vaches en santé au Québec.
Exactement.
Okay.
Donc, elle est arrivée en janvier. Elle est pigée au PSTQ, donc ravie de voir ça.
Oui.
Elle a rassemblé la centaine de documents qu'il faut rassembler en plus en un temps record, parce qu'ils nous donnent un temps record. Hein. Ils nous disent, vous devez les rassembler avant
tout. Oui, on a plusieurs immigrants, plusieurs personnes immigrantes dans la région.
Voilà. Ouais. Donc, ça fait 7 mois qu'elle attend. Elle est en fiche visiteur, donc elle ne peut pas travailler. Elle a renouvelé son badge à l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec à ses frais pour pouvoir travailler. Et ça fait 7 mois qu'elle est en... qu'elle vit sur ses économies. Son conjoint est en emploi ici. Et elle a traversé des moments de détresse mentale terrible.
Infirmière clinicienne. OK. Attends, je vais penser 2 secondes. Oui, il en manque.
Oui, il en manque, clairement.
Elle est ici, en solde québécois.
Elle connaît
depuis
déjà.
7 mois.
Elle connaissait son hôpital.
On disait, attendez.
2 ans après qu'elle s'est bien sûr intégrée, elle est francophone, elle était en emploi. 2 ans après, on lui dit finalement, non. Et actuellement, il y a d'autres travailleurs immigrants temporaires qui ont pris sa place et à qui on est en train de faire miroiter des histoires de « oui, bien sûr, ça va être super ».
On termine cette entrevue très décourageante et c'est pas à cause de vous, à cause du système. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Vous habitez dans Limoilou, avez-vous fait des recommandations auprès de votre député Sol Zanetti?
Effectivement.
J'ai
passé le message. J'essaye de communiquer le plus possible pour qu'on entende pas seulement mon histoire et celle de la voisine, mais aussi celle de plein de travailleurs immigrants temporaires qui sont intégrés francophones et en emploi, que leurs employeurs ne veulent pas voir partir. Donc, moi, pour ma part, je dirais qu'une extension d'un permis ouvert, parce que Ottawa a extensionné les permis fermés, une extension de nos permis ouverts aussi pourrait nous permettre d'accéder à cette nouvelle vague de PEQ, ou alors un rétablissement des promesses qui ont été faites par Mme Fréchette quand elle est arrivée.
Exactement. François Descoix, félicitations pour votre courage.
Merci
de contribuer à cette belle société au Québec et à Québec.
C'est un plaisir.
On se tient au courant des développements?
Oui.
Continuez vos démarches, ça va nous faire plaisir de vous appuyer comme ça avec le micro à Boulevard 101 puis de mettre de la pression sur les décideurs.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Ah, quelle histoire, Pascal. Je suis découragé.
Ils doivent être découragés aussi. Je ne peux pas croire que ça doit être facile à défendre tous ces processus-là.
Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Oh.
Puis les problèmes aussi collatéraux. T'sais, si on prend cette infirmière clinicienne-là qui a été sortie de son domaine de travail professionnel dans lequel elle connaissait quoi faire, puis elle connaissait bon, son équipe et tout ça, pour amener d'autres travailleurs étrangers à aller colmater le manque qui n'était pas formé. T'sais, c'est tout le temps de la formation, c'est tout le temps de l'argent, c'est tout le temps. On travaille broche à foin.
Ben oui.
On travaille tout le temps à essayer de ramasser les pots cassés au lieu de, oui, peut-être casser un peu de peau, mais quand ça recommence, par exemple, tout tient, la maison tient.
Mais oui. Plusieurs réactions par texto. Je vais avec deux rapidement. Hey, ça fait chier, hein, en bon québécois. La personne parle français, travaille, contribue à la société, puis on va la retourner chez elle pour après ça accueillir d'autres mondes qu'on va être obligé de franciser.
Et peut-être ne pas garder l'erreur. Aussi. Ouais,
exactement. Et vous avez là un bel exemple de gestion des règles et des politiques mal écrites que les fonctionnaires doivent suivre parce qu'on ne compte pas sur le jugement de ces derniers, c'est vrai.
Ça, je suis tellement
d'accord. C'est là à l'analyse. Mais c'est à l'analyse cas par cas qu'il faut faire.
Sûrement des employés qui trouvent ça absolument aberrant.
C'est clair. Il y en a qui doivent signer le papier pour dire refuser et doivent dire qu'est-ce que je fais là? Mais c'est ça, c'est notre système. On va souhaiter que ça change grandement. Après la pause, on parle avec Florence K. Les artistes qui manquent de moyens. Florence K, elle est une artiste. Elle a fait son doctorat en psychologie. Elle est rendue psychologue. Est-ce que c'est la voie qu'il faut suivre? Ça va être une bonne question à lui poser. Immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.
Juste Québec Live tout en profitant des bassins rafraîchissants, des soirées d'humour, des soirées country et plus encore. Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre 5 à 7 pour 4 personnes avec consommation à la cour arrière de Québec, votre incontournable de l'été.
Cet été, fais partie de quelque chose de solide avec Canam. Des projets d'envergure, une équipe fière et un avenir à bâtir. Postule maintenant au canamembauche.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Cet été, l'aventure vous appelle partout au Québec, chez Arbraska. Découvrez nos 5 parcs avec encore plus de tyroliennes, de défis aériens et de sensations fortes en pleine nature. En famille ou entre amis, trouvez votre aventure dès maintenant. Ouvert 7 jours sur 7, réservé sur arbraska.com.
3 pour 1, partez!
Hey, il a dit 3 pour 1 ou 3 2 1?
Ben 3 pour 1, c'est impossible!
Pour son 40e anniversaire, New Look offre bel et bien 3 pour 1 sur une sélection de lunettes.
Hey, tu vas où vite de même?
Jusqu'au 25 juillet 2026. Des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Le 3 juillet, Québec célèbre son 418e anniversaire. Participez aux activités gratuites. Dans le jour, prenez part au circuit touristique du Vieux-Québec ou visitez l'Hôtel de Ville. Et en soirée, ne manquez pas le spectacle de l'Orchestre symphonique de Québec à la place Jean Béliveau. Détails et programmation complète au ville.quebec.qc.ca/3 juillet. Une invitation de la Ville de Québec.
L'été. Le moment parfait pour inviter des amis à souper, prendre le temps de jaser et cuisiner avec les meilleurs produits de saison. Cette semaine, Métro vous offre les cerises colossales à 2,99 la livre ou 6,59 le kilo et le beefsteak de contre-filet de première qualité à 10,99 la livre ou 24,23 le kilo. Difficile de trouver mieux. Métro. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur métro.ca.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviro-Confort. Que ce soit pour la qualité de ses thermopompes ou l'excellence de son service après-vente, Enviro-Confort est votre référence pour rester au frais tout l'été. Ne laissez pas la chaleur ralentir votre quotidien. Faites confiance à une équipe reconnue pour son expertise, son service et des solutions adaptées à vos besoins. Cet été, choisissez le confort en toute confiance. Prenez le contrôle avec Enviro-Confort.
Enviroconfort.com.
Envie de vous évader en nature? Au Centre Castor, vivez le plein air à son meilleur. Golf, vélo de montagne, sentier de marche et une foule d'activités pour toute la famille. Mariage, banquet et événements corporatifs y trouvent aussi un décor exceptionnel. Centre Castor, des émotions, grandeur nature.
Vous cherchez un emploi stimulant avec de bonnes conditions? Découvrez la toute nouvelle succursale de Signalétique au 750 Chemin Olivier à Saint-Nicolas, local 105. Le 8 juillet de 13 à 18 h, venez nous visiter lors de la journée porte ouverte. Entrevue garantie sur place. Signalétique recrute des signaleurs routiers et des installateurs de chantier. Formation payée, salaire compétitif, prime avantageuse et poste à temps plein ou temps partiel. Permis de conduire valide requis, envoyez votre CV à cv@commercialsignalétique.ca ou au carrière.fm.
Si vous avez besoin d'aide avec vos dettes, contactez Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Rendez-vous sur raymondchabot.com.
La météo du jour, présentée par Chaloux. Aujourd'hui, ça sent le soleil, les amis, puis les soirées qui finissent tard. Chaloux, à Saint-Émile, Beauport et Sainte-Cat.
On en jase à Boulevard 102.
Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans notre 100% parler tout l'été.
Oh oui, on en jase 100% parler tout l'été avec Jeff Fortin, Pascal CV pour cette semaine et la semaine prochaine. Par la suite, c'est Pascal et Mathias pendant mes semaines. Mais trois semaines de vacances. Première fois en 10 ou 11 ans que j'ai trois semaines de vacances.
Avec ton année en plus, là, à couvrir toute la politique, faire des émissions spéciales le matin, le midi, c'est mérité.
Merci. Ça sera Pascal avec Mathias Turcotte et je suis de retour le 3 août à la météo. Ben, pas de surprise, hein, c'est grosse chaleur. C'est 40 degrés ressentis. 40% de possibilité d'averse. Il pourrait avoir des orages violents en fin de journée, début de soirée. Donc, à surveiller. Demain aussi, encore l'humidex à 30, 31 degrés, mais cette fois seulement 30% de possibilité d'averse. Et cette fin de semaine, samedi et dimanche, c'est 25 et 27 degrés. Full ensoleillé, moins d'humidité.
Les orages, nous les souhaitent parce que honnêtement, ça va faire tomber un peu cette humidité-là.
Ah oui, vraiment.
Quand on regarde à l'extérieur, le soleil n'est pas super dégagé. D'après moi, ça se dirige sur nous.
Exactement. Série d'articles sur nos artistes, Pascal. Culture québécoise, culture francophone que j'encourage énormément. Moi, je suis un crackpot de musique francophone. Hier, j'ai fait mon ménage avec du vulgaire machin. Moi, j'écoute. Sérieusement, là, quand moi, je choisis une chanson, à 80% du temps, c'est une chanson francophone.
Ouais, moi, j'adore ça aussi. J'y tiens en plus. Ça fait partie d'un patrimoine. Puis on a tellement d'artistes qu'il ne faut même pas oublier. Tellement ils ont été bons, puis ils ont marqué des générations, puis qui ont fait partie de cette révolution musicale-là. Là.
Exactement. 75% des shows que je vais aller voir, c'est des artistes francophones. Moi, je suis vraiment... C'est mon côté identitaire. C'est mon côté nationalisme. Je ne suis pas encore un souverainiste, mais je suis un nationaliste dans l'art et c'est dans l'âme et c'est mon côté. C'est comme ça que je veux encourager nos artistes. Donc, j'ai été quand même peiné en fin de semaine quand j'ai vu la suite d'articles dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, de voir que nos artistes en arrachent. J'ai regardé, j'ai lu les articles et je suis tombé sur une personne qui m'a inspiré, c'est-à-dire Florence K, qui est artiste, mais qui a aussi fait son doctorat en psychologie, puis qui est psychologue. Puis là, j'ai dit « Wow! » Tu sais, je regarde ma blonde à la maison, qui a deux emplois, ça nous permet des petites gâteries une fois de temps en temps, un petit voyage, un petit ça à travail, je la trouve exceptionnelle. Puis là, j'ai dit « Ben, qu'est-ce? Florence K, c'est donc bien exceptionnel, artiste et psychologue. Puis je suis content parce qu'elle est avec nous présentement pour en jaser. Florence, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ouais, ça va super bien. Florence, artiste, psychologue, tu as fait ton doctorat en psychologie.
D'où il me reste 2 ans.
Il te reste deux ans, OK.
Ouais, sur 9.
D'où ça vient, ce désir-là d'être une double personne, tiens?
J'aime bien. Oui, psychologue de jour et artiste de soir.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est bon. Ça fait très longtemps que j'ai une passion pour tout ce qui est santé mentale et psychologie. Donc, c'est un sujet qui m'a personnellement interpellée quand, il y a 15 ans, j'ai fait une dépression majeure qui m'a menée jusqu'à être hospitalisée en psychiatrie. De là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pour que je passe d'un fonctionnement en tant que mère, artiste, artistes, amis, un fonctionnement relativement normal là, et à être en psychose et à être à l'hôpital, justement. Donc, j'ai voulu comprendre comment ça pouvait se passer dans le cerveau. Alors, je me suis dit, bon, là, j'ai étudié à temps... j'étais chanteuse. À l'époque, ma carrière, c'était vraiment mon occupation principale, ma carrière musicale, et mère mono. Donc, je me suis inscrite à la TELUC, l'université en ligne, pour prendre des cours d'un certificat en psychologie, mais de façon vraiment pour le fun, pour comprendre un certificat, donc ces discours que j'ai fait en 4 ans, mes shows, mes tournées, sans stress. C'est vraiment... Puis après avoir terminé mon certificat, j'ai fait comme, « Hey, je m'ennuie d'étudier la psycho. » Là, on était rendu à peu près en 2015-2016, fait que je me suis inscrite encore en ligne. J'avais pas la possibilité à l'époque, pour des raisons professionnelles et familiales, de retourner à l'université dans le building, là. Donc, je me suis inscrite au DESS en santé mentale, qui est une formation en deuxième cycle, en santé mentale. Et là, je l'ai faite en 2 ans ou 3 ans, à temps partiel, entre mes tournées, entre mes disques, tout ça. Puis là, donc, après avoir terminé ça, j'ai fait comme, OK, ben là, je souffre de ne pas être en train d'étudier encore plus là-dedans. Et j'ai dit, OK, ben peut-être que c'est révélateur de quelque chose. Et j'ai été voir une conseillère en orientation. J'ai regardé plusieurs possibilités. Déjà, moi, j'ai pas souffert d'un gros vide professionnel dans ma carrière artistique. J'ai toujours travaillé jusqu'à ce que je puisse plus à cause des études qui sont devenues de plus en plus prenantes. Mais je voyais venir, il y a 10 ans, la possibilité que ma carrière, que j'ai beaucoup aimé toutes mes années de carrière professionnelle, je voyais que ça pouvait s'essouffler et je me suis dit, je vais prendre le taureau par les cornes parce que je n'avais pas envie de ne pas avoir été prévoyante. Et en même temps, j'avais cette grande passion pour la psychologie. Donc, j'ai vu la conseillère en orientation et j'ai dit, OK, je vais essayer. Donc, je suis rentrée au bac en psycho. Et après le bac, ben, j'ai fait comme, OK, ben, pour être psychologue, il faut faire un doctorat. Donc, j'ai appliqué. Et je suis rentrée au doctorat, donc là, c'est 6 ans, le PhD, parce qu'on fait une partie recherche et une partie clinique. Donc, et là, ben c'est ça, il me reste juste 2 ans. Donc, je commence en fait des internats, donc je vais être en clinique et je termine ma thèse dans les 2 prochaines années.
Est-ce que les deux côtés de la médaille actuellement, dans le débat qu'on a par rapport aux artistes, comment on devrait les payer, comment on devrait les aider, à la détresse psychologique aussi, de moins en moins de contrôle, là, ça dit, ça vient te chercher? Parce que même si t'as pas été touché, c'est sûr que tu connais plein de gens dans l'industrie.
Oui. Non, mais moi, je l'ai vu venir pour moi. J'ai pas été touchée parce que j'ai fait « Ah non, ça me tente même pas d'embarquer là-dedans, je vais me trouver une autre job tout de suite. » Donc, je l'ai pas senti, mais toute ma famille est artiste, tous mes amis. Et j'ai connu, on parle pas juste des artistes vedettes. Puis je pense que ça, c'est un petit peu plate parce que on reçoit beaucoup de critiques, hein, les artistes, pour avoir dénoncé ça. Et je tiens juste à rappeler que dénoncer les difficultés d'un milieu professionnel n'invalide et ne minimise en rien les difficultés des autres milieux professionnels.
En effet. Donc,
en rien, là, on pourrait parler du dossier de d'autres difficultés. On le sait, ça va pas bien dans la société. On sait, les choses sont chères. Mais là, on parle d'un domaine en particulier. Donc, ce domaine-là, oui, il y a les artistes, mais il y a tous ceux que les artistes vedettes, entre guillemets, font vivre. Donc, on va parler de techniciens, d'agents, de producteurs, de graphistes. On va parler de gérants, on va parler des salles, des gens qui se battent pour garder des petites salles ouvertes, la culture en région. Donc, on voit pas juste l'artiste dont on voit la face, dans un show télé le soir, puis qu'on se dit « Ah, il est à télé, il est riche. » Là, je parle de toute une industrie. Donc, il y a beaucoup eu de ce qu'on appelle un peu du artiste bashing, entre autres, et je peux comprendre parce qu'on a cette image dont ben pourquoi ils se plaignent qu'ils aillent faire autre chose. La seule chose, c'est que souvent, quand on va faire autre chose, on met la clé sous la porte de notre carrière artistique. Pourquoi? Pas parce qu'on n'aime plus ça, mais parce qu'on commence à faire un autre travail, donc on n'est plus au sommet de notre art. Moi, je ne pratique plus comme je pratiquais avant, là, j'ai pas le temps. Mais moi, je suis correcte. Moi, c'était ça, mon désir. Mais il y en a d'autres.
Est-ce que le deuil a été dur quand même, Florence? Je m'excuse de t'interrompre. Oui.
Oui, le deuil, mais j'étais consciente que j'allais devoir faire un deuil, puis je l'ai fait selon les étapes normales du deuil. Il n'y a pas d'étape normale, entre autres, mais j'ai vécu comme un deuil. Je savais, OK, ben là, je suis en train de faire le deuil. Mais le deuil, c'est quoi? C'est perdre quelque chose. Après ça, tu as une période d'introspection, de réflexion, puis après ça, d'espace pour envisager comment pourrait être le reste. Mais moi, je pense qu'il y a un an, c'est là où j'ai vraiment vécu comme, OK, je ne serai jamais capable de faire les deux en même temps, autant. Je peux monter sur scène une fois par 2 mois, là, puis avoir du fun ou enregistrer une toune, tout, mais c'est sûr que ça prend du temps de travailler, ça prend du temps d'écrire un album, ça prend du temps de penser à ses paroles, aller en studio, enregistrer, perfectionner, faire un produit qui est à la hauteur de ce qu'on a envie de donner. Moi, j'ai plus ce temps-là. Je suis très correcte, je tripe sur ma nouvelle carrière. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est pas donné à tout le monde de retourner aux études. Moi, j'ai une chance exceptionnelle. J'ai été privilégiée parce que j'ai une passion pour autre chose. Déjà, il faut se trouver un autre métier qu'on va aimer, idéalement, hein? Puis, en même temps, c'est pas donné à tout le monde non plus, avec des circonstances familiales, des circonstances monétaires, financières, de pouvoir faire ça. Il y a plein d'enjeux. Il faut se rappeler que c'est du cas par cas aussi. Mais ce que je déplore, en fait, c'est de toujours. C'est comme si les artistes, à chaque fois qu'ils se prononçaient là-dessus, ils se faisaient beaucoup, beaucoup insulter. Là. T'sais,
On
en
l'a
gros, on l'a
inché,
vu,
oui.
là. Ils se font
L'image
lyncher.
change.
Ouais, mais je veux juste rappeler que dénoncer les conditions d'une profession ne minimise et n'invalide en rien les conditions de toutes les autres catégories de la société, là. C'était un dossier en particulier qui explique des choses qui vont mal. Et il faut rappeler que le produit des artistes est consommé de toute façon gratuitement. Donc, sur Spotify, sur Apple, tout ça, notre musique est consommée. Les artistes ne reçoivent, à part les grands noms, parce qu'il faut vraiment que ce soit consommé en masse pour qu'ils aient ça. Donc, leur musique est utilisée, consommée, tout ça, mais il y a pas la valeur du travail n'est pas récompensée justement à sa juste valeur. Donc, l'artiste aussi va perdre confiance en pourquoi je fais ça à la fin de la journée. Mais si on a juste les grands noms, imagine ta playlist, c'est juste. Ben, non, moi j'ai des playlists parce que c'est juste Bad Bunny, parce que je suis une méga fan, mais mettons. Je sais pas, au magasin, dans un mariage où tu passes une journée, là, t'écoutes la radio, puis c'est tout le temps les mêmes trois artistes qui jouent. Il faut de la diversité, mais pour qu'un artiste puisse en arriver à faire son album, à sortir une chanson, qu'elle soit bonne, il lui faut du temps. Il lui faut de la pratique. Un artiste, c'est pas juste je me réveille le matin, je prends ma guitare, ah, ça me tente d'être connu. C'est pas ça. Moi, j'ai des amis, on parle de maîtrise, on parle de doctorat, on parle de vouloir aussi faire évoluer la musique, les connaissances musicales. De toute façon, la vie serait vraiment triste sans art et sans culture. Et je dis ça, et encore une fois, je parle de la culture, je ne parle pas des difficultés des autres. Pression, on s'en revient là-dessus, puis je le dis bien parce que sinon on se fait beaucoup bâcher en tant que tel, mais je veux dire, il faut quand même donner une porte à ce que cette culture continue d'évoluer, surtout quand les gens sont tellement contents de vanter la culture québécoise, quand les gens sont tellement contents d'aller dans des festivals où est-ce que la musique est présentée gratuitement. Je veux dire, c'est juste, il faut nuancer tous ces propos-là. Il faut voir l'ensemble avant de porter un certain jugement. Mais pour qu'on en revienne, là, je m'éloigne beaucoup, mais moi, mon sujet de thèse, c'est vraiment le bien-être, la santé mentale puis la créativité des artistes. Donc, j'étudie ça, je lis là-dessus tout ce qui se fait au niveau des. Et ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est que effectivement, les conditions causent vraiment une perte. Donc, les gens quittent le milieu et aussi il y a de la détresse. Et puis, à un moment donné, ben, la créativité, elle stagne. Et comment est-ce qu'on va renouveler notre bassin? Puis, c'est pas juste trouve-toi un autre job, parce que j'en connais tellement qui ont d'autres jobs. Mais c'est juste que notre art, il sera plus à point. Moi, je joue plus comme il y a 10 ans quand je pratiquais tous les jours. Je suis correcte avec ça, j'ai pas de problème, mais le fait est que si je voulais me remettre à faire de ça ma première profession, ben, il faudrait vraiment que je me remette en forme pianistiquement puis musicalement à fond, là. Je pourrais pas juste comme improviser, ah ouais, j'ai pas joué autant depuis tant d'années, puis that's it, je suis au sommet de mon art, là.
Les avantages et désavantages, peut-être, d'avoir en plus des subventions, peut-être cette aide-là qui est discutée là, pour les artistes, que ce soit de compenser pour certaines pertes de revenus ou encore des moments où on travaille, mais que c'est pas payé en ce moment, comme quand on crée ou quoi que ce soit. Quels sont-ils? Parce que ce qui est discuté en ce moment, c'est si un artiste, ça fonctionne pas, ben peut-être qu'il faudrait, et la question est difficile, le sujet est difficile, peut-être qu'il faudrait qu'il arrête.
Alors, encore une fois, ce n'est pas à moi de dire là-dessus parce que c'est très aléatoire. Il y en a qui n'ont pas arrêté pendant 15 ans, qui ont persévéré, puis ça a donné des gros hits qui ont encore fait du bien à tant de gens. Il y en a qui ont continué en travaillant une deuxième puis une troisième job jusqu'à ce qu'ils percent. Il y en a qui ça a super bien marché puis qui ont décidé d'arrêter. Mais je pense que, tu sais, encore une fois, il faut le détailler, ce propos-là, il faut le nuancer. Est-ce qu'il y a des critères par rapport à ça? Est-ce que si tu as juste essayé une toune, ça n'a pas marché, puis that's it? Est-ce que c'est c'est, je veux dire, il y a en France ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle. Donc, si quelqu'un est professionnel, fait des tournées, a travaillé, a donné énormément d'années à son art et tout, et qu'il y a une période creuse, un peu comme le concept du chômage, est-ce que cet artiste-là, qui a donné dans son milieu et qui a transmis son art et tout, est-ce que cet artiste aurait le droit de pouvoir, en attendant, dans la période creuse, continuer à se consacrer à passer des auditions puis à essayer de réussir? Parce que quand tu as une job à temps plein aussi, tu sais, c'est pas évident d'aller faire tes auditions, tu dis à ton boss, excuse-moi, j'ai une audition, demain j'en ai une aussi, tu sais. Donc, encore une fois, ça dépend des balises, ça dépend des critères, ça dépend de plein de choses. C'est sûr que l'idée ici, c'est pas tout ou rien non plus, là. Puis, malheureusement, c'est sûr que le milieu a changé. Il est sous respirateur artificiel depuis l'avènement de ce qu'on appelle les GAFA, les géants du web. Il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises. On se rappelle quand ils voulaient qu'il y ait des redevances aux artistes quand le iPod était là, la fameuse Harper appelait ça le iPod tax, là. Alors que, bon, encore une fois, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais tu sais, il n'y a rien qui a été fait à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres pays qui ont balisé les choses. La musique est consommée, la musique est utilisée, la musique est aimée, mais c'est comme si les artistes ne devaient pas être rémunérés à la hauteur de ça, alors qu'il y a tout plein de monde dans ces organisations-là qui se font tout plein d'argent, mais les artistes, à la fin de la journée, eux, non, ils ne peuvent pas se plaindre. Donc, il y a tellement d'enjeux qui sont liés à ça. Moi, je me concentre dans mes travaux vraiment sur les facteurs de détresse psychologique des artistes et sur l'impact que ça a sur leur créativité. Et ce que mes travaux montrent, encore une fois, on parle d'une étude et de plusieurs, d'une littérature scientifique, d'une revue de littérature par rapport à tout, là, j'ai pas la vérité infuse, mais ce que ça montre, c'est que la détresse psychologique, non, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement bon pour faire avancer la créativité ou l'estime de soi créative d'un artiste. Donc, c'est ça.
Florence K, il faut que je te dise, tu m'as vraiment touchée au début de l'entrevue quand tu t'es ouverte à nous avec ta dépression majeure et le fait que ça t'a amené à des études en psychiatrie. Moi aussi, j'ai fait une dépression majeure en 2019. Tu es devenue rapidement une inspiration pour moi. Alors, merci beaucoup.
Merci
de ton témoignage. Non, c'est vrai, merci de ton témoignage. Moi, les êtres humains qui sont capables justement de démontrer leur vulnérabilité, puis après ça, de démontrer qu'il y a autre chose après cette détresse psychologique-là, ça m'impressionne beaucoup. Alors, félicitations et merci beaucoup.
Ben, merci pour le beau moment, puis je vous souhaite un été plein de musique et d'art.
Ah, quelle bonne idée! Moi, j'aime ça. J'adore.
Merci beaucoup.
Salut Florence.
Bye-bye.
Salut. Florence K, artiste maintenant, psychologue. Elle a fait son doctorat en même temps qu'elle était artiste. Il lui reste 2 ans à faire d'école. Une histoire inspirante. J'aimais beaucoup justement la faire partager aux auditeurs. Par texto, les auditeurs sont pratiquement unanimes. Hey, ils ont déjà assez de subventions, ils ont déjà assez de ci, ils ont déjà assez de ça. Je voulais vraiment apprendre, moi, langue un petit peu plus psychologique. Puis je trouve que Florence l'a bien abordé, la détresse psychologique, de justement que la carrière ne fleurisse pas, puis que ça ne fonctionne pas bien, tout ça. Faut pas oublier le côté de l'être humain derrière ça, là. Puis c'était ce côté-là que je voulais démontrer, là. Parce que, tu sais, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, tu sais, moi, je pense que faut pas nécessairement traiter les artistes au niveau monétaire différemment qu'un autre employé dans une shop de bois, par exemple, ou une shop d'aluminium. Mais... N'empêche qu'ils vivent quand même des détresses chez des êtres humains. Là.
Ça, on peut être absolument tourné vers l'autre là, dans ce contexte-là. J'aime ça aussi qu'elle parle de est-ce qu'on pourrait avoir des barèmes? On pourrait avoir un genre de petit formulaire à cocher selon certaines dispositions.
Exactement.
Être un peu rigoureux face à ça aussi. Y a-tu une différence entre un artiste aussi qui a tenté pendant 30 ans, malgré le fait que ça pourrait être la 35e année qui réussisse sa bosse, mais à un moment donné, est-ce qu'on subventionne pendant autant d'années versus un artiste qui a donné beaucoup, qui a eu une deux années plus creuses. Il y a des choses quand même intéressantes, oui.
En effet. Est-ce qu'on va pouvoir réécouter? Oui, l'entrevue va être intégrale sur le blvd.fm à la fin de l'entrevue. C'était une question qu'on a à la fin de l'émission. C'est une question qu'on avait par texto. Steve qui dit « Hey, bravo! C'était bien mieux traité que TVA. Ben, tant mieux! » C'est pour ça. C'est à ça que ça sert, écouter Boulevard et l'émission On en jase. Hey, pendant qu'on est dans la culture, Pascal CV, as-tu vu ça en gêne de poitrine?
Ben oui. Okay. Ben oui.
Complètement malade comme phénomène.
Capoté, oui, j'adore ça. Ouais. Je commence à entrer dedans, là, ça me fait rire.
Ben, c'est ça. Moi, au début, Denis Gravel, je vais l'avouer, là, je l'adore, Denis, mais il m'énervait. Je trouvais qu'il en parlait trop. Mais là, moi aussi, je suis embarqué. Tu sais, à un moment donné, des fois, à trop en parler. Mais là, as-tu vu ce qui se passe avec les festivals dans lesquels ils vont être? C'est la pagaille. Parce que là, au Festival de jazz de Montréal, ça a été la zizanie.
Oui.
C'était l'anarchie. Les gens voulant entrer sur le site ne pouvaient pas.
Des publics
du monde
à la Nirvana
en ambulance. Hey, c'est drôle que tu parles de Nirvana parce que quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Nirvana, au Foufoun électrique, le 21 septembre 1991. Okay? Quand ils sont allés là au Fouf, ça, le chum Reg Laplanche me l'a bien expliqué parce qu'il était là à ce show-là. Trois jours plus tard, c'était la sortie de leur album Nevermind. C'était trois semaines après qu'ils aient lancé leur premier titre de cet album-là, qui est Smell Like Teen Spirit. Okay? Et là, ben les Fouf, tu comprendras que ça a débordé. C'était pas assez grand. Je suis allé voir la tournée 2-3 Punk de Reg au Fouf, puis t'as vraiment l'affiche signée par les gars de Nirvana.
Nous
et tout
étions
ça.
Là.
Puis là, il y avait des gens qui voulaient rentrer dans les Fouf, qui ont été obligés d'amener les meilleurs bodyguards du monde, tout le kit, pour dire « Hey, à un moment donné, il n'y a plus
ça
de place! »
On veut bien, mais ça rentre.
Et là, Nirvana, quand c'est arrivé cet été-là, parce que là, paf! Hey, imagine-toi, 10 janvier, Nirvana, 10 janvier 1992, dépasse Michael Jackson. Au sommet des billboards.
Pas rien.
Fait que là, il arrive dans les festivals comme ça en 92, notamment en Europe. Là, les gens des festivals se regardent et disent, mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de place pour eux autres.
Ça a pogné trop vite.
Ouais, c'est parce qu'ils jouent la première partie de 3, mais il faudrait que ça soit le headliner, la grosse tête d'affiche.
Un genre de Fred à ce temps-ci de l'année aussi, le jeune artiste là, qui a rempli des salles puis que finalement, c'était pas assez gros pour lui, sa programmation.
Fait que les festivals européens se retrouvaient avec le même problème de dire, on fait quoi? Parce que là, Nirvana, ça attirait du 75 000 personnes, qu'eux autres, ils avaient dit, bon, ça va être 10 000.
Angine de poitrine, c'est un peu
ben,
ça. Angine
de poitrine, c'est exactement la même chose. Et là, les festivals au Québec commencent à changer leur programmation ou à changer leur façon de faire. C'est le cas du festival qu'il y a chaque année à Rimouski où on a dit « Hey, on y faisait jouer sa petite scène. » Ben là, on a réaménagé le site de la petite scène. On a reculé des clôtures, toute la kit pour dire « Là, faut être capable de rentrer le plus de monde possible. » Même principe au niveau du Blue Fest à Ottawa où on les a transférés sur la scène principale avant et là, Langley, une sensation country et Sheryl Crow. Et du côté du festival, ici à Québec, ils vont être là le 2 août. Donc, manquez pas ça. Le site est très grand déjà du festival, donc on dit qu'on n'aura pas besoin de changer les choses. Il joue avant les Vulgaires Machins et The Offspring. Fait que, tu sais, ça va être un show extraordinaire. La gang du festival s'est juste dit, ça va être hot parce que le site va déjà être rempli à 7 heures. D'après moi, il va se vendre de la bière ce soir-là.
Ça risque d'être assez festif.
Ah, ça va être fou. Alors, Angine de
Mais
poitrine.
Je trouve ça trippant. Deux gars
c'est
qui
fou.
Commencent comme deux stupidités dans le sens où ils jouaient de la musique, ils n'étaient pas déguisés, puis à un moment donné, ils se font booker deux fois dans le même festival, dans la même semaine, puis ils disent, ben là, le monde, ils vont dire, pourquoi on est là deux fois?
Ouais.
Ils décident pour la deuxième fois de se déguiser puis de changer un peu leur style. Ça a tellement fait triper le monde, puis
ben,
maintenant,
c'est
une renommée mondiale qu'ils ont. Là.
Je sais que le fait que c'était dit, hey, on les a eu l'année passée, c'était à Place Youville, imagine-toi. Donc, cette année, on ne rebookera pas.
Mais il y aurait pu.
D'après moi, ils le regrettent un peu, puis
d'après moi,
je te dirais qu'en 2027, je pense bien qu'ils vont avoir leur soirée sur les plaines.
Si, Angine de poitrine est disponible, parce que ça va être ça aussi pour les
ben
prochains
oui,
mois.
Oui, exactement. Alors, une popularité grandissante, Angine de poitrine dans la même ligue que Nirvana.
Quand même, là, pour ceux qui riaient. Mais pas ma mère a dit encore, c'est quoi cette histoire-là? Il y en a une,
ben
une qui embarque pas partout.
Imagine-toi mon père. Bon, pas que jamais été musique progressive.
Les Michel Rivard, ils ont
c'est
eu ça.
Ça
dans leur génération.
Puis là, ils se retrouvent avec des...
Sébastien!
Surtout depuis qu'ils sont passés, tout le monde en parle, puis qu'ils ont parlé en extraterrestre. Là. Mon père, c'est quoi cette affaire-là?
Qui ont du guts, moi, je les salue.
Mais ça, je le comprends. Courte pause, on parle avec Mylène Moisan par la suite. On parle souvent de la DPJ aussi à l'émission On en jase. Et Mylène a fait une série d'articles, trois articles avec trois jeunes issus de la DPJ. Des histoires assez rocambolesques. Puis je veux le dire, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui travaillent à la DPJ, les éducateurs, j'en connais beaucoup, je connais beaucoup de gestionnaires. Je sais qu'ils travaillent fort. La capitale nationale est reconnue comme justement étant un beau milieu pour eux. Mais il faut quand même parler de ces histoires-là pour s'assurer qu'il y a des améliorations qui se fassent dans le système. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Mylène Moisan. Mais avant, circulation.
Oui, véhicule en panne dans la voie de gauche à l'entrée du pont Pierre-Laporte, direction nord, malheureusement. À cette heure-ci, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Congestion assez importante.
Exactement.
Soyez prudents.
Jusqu'à 14. Parler tout l'été.
Et oui, 100% parler tout l'été. On adore vous tenir au courant de sujets importants de la société. Puis on va en aborder un avec Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil. Pascal, je pense que les gens commencent à me connaître, commencent à nous connaître. On est très touchés par les gens qui n'ont pas des chances égales dans la vie.
Oui, parce qu'on est conscient qu'on a peut-être eu beaucoup de chance, que ce soit, oui, dans le bien matériel, mais surtout au niveau de l'amour,
oh,
de
l'encadrement.
Vraiment. Tu sais, d'apprendre des choses à son enfant, c'est une forme d'amour spectaculaire qui l'aide pour la suite de sa vie.
Moi, je viens de rire de mon père avec angine de poitrine, qui ne comprend pas le phénomène, mais c'est mon accent. Le daron, tiens, je vais prendre un langage d'ado. C'est parce que mes ados m'appellent comme ça maintenant, le daron. Alors, sans mon daron, je ne sais pas ce que je serais devenu, parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai pas fait dans ma vie parce que je voyais la face de mon père dans ma tête. Puis là, je me disais, va pas là.
C'est niaiseux, mais juste ça.
Va pas là, c'est parce que je voulais pas perdre sa confiance, je voulais pas perdre l'estime qu'il avait de moi. Je trouvais ça important, j'avais un bon encadrement familial. Puis encore aujourd'hui, son grand-parent, puis sont assis sur des petits bancs de bois à un terrain de baseball pour voir leur petit-fils évoluer. Ils vont jouer au golf avec leur petit-fils, sont assis dans tous les arénas l'hiver pour voir.
C'est un soutien tangible qui parfois n'est pas nommé.
Ben oui.
Il n'est pas évident à voir, il est tout le temps là. Puis il y a des gens qui ont personne, qu'il arrive quoi que ce soit, ils ne savent même pas qui appeler.
Exactement. Imagine, mes gars de 16 et 18 ans ont la chance d'avoir papa derrière le banc qui est coach, mais surtout maman des estrades avec la grand-mère maternelle, puis la grand-mère puis le grand-père paternel dans les estrades.
C'est d'une grande richesse.
Et s'ils ne sont pas là, ils les cherchent. Ils ont 16 et 18 ans. Si mes parents ont le malheur d'arriver 2 minutes en retard à la game, Edouard ou Elliot vont me regarder et vont dire « Papi, mamie, comment ça, ils sont pas là? »
Il est arrivé quelque chose.
Il est arrivé de quoi? T'as-tu un message sur ton sel? Puis Edouard, dès que le match finit, il a 16 ans, il me dit toujours, moi, je coach, faut que je parle aux joueurs après la game dans les estrades. Il me dit toujours, dans la chambre, il me dit toujours, attends 2 minutes, ben, m'en aller parler à papi et mamie.
Tu sais, ça, c'est pour des games de hockey, c'est un soutien indéfectible.
Ben oui.
Puis en arrière de ça, c'est aussi plein de têtes différentes, avec des vécus différents, avec des apprentissages possibles différents. Avec une possibilité d'obtenir un soutien dans n'importe quelle situation. Mm-hmm. Puis c'est un sentiment de jamais se sentir seul.
Vraiment.
C'est pas tout le monde qui a ça.
Non, c'est pas tout le monde qui a ça. Et surtout pas les 3 jeunes de la série de textes de Mylène Moisan, chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Mylène, faut que je te le dise, tu m'as fait sortir les émotions. J'ai les yeux dans l'eau quand je lis tes chroniques.
Oui, ça arrive. Je l'entends quelquefois. Ouais.
Ah oui, c'est
même moi,
fou.
Ça m'arrive quand un des portraits que j'ai fait sur Alicia, quand j'ai fini de l'écrire, moi-même, j'étais...
Ben parlons-en justement d'Alicia, parce que ça m'a fendu le cœur. Mère de 15 ans qui est avec un homme viol. Alicia se retrouve à se promener d'un endroit à l'autre, tombe enceinte elle au sein d'un jeune âge, vit dans la rue. Mm. Ouf, on l'a échappé, la DPJ, celle-là.
Oui, vraiment, vraiment. T'sais, petite fille de 3 ans, donc elle était avec sa mère de 15 ans pendant 3 ans. Et là, écoute, à 18 ans, sa mère devient adulte. Et là, la DPJ s'en occupe pas parce que la DPJ s'occupait de la fille-mère. Mm-hmm. Mais une fois qu'elle est devenue adulte, ben là... C'est fini.
C'est ça.
Donc là, la petite Alicia, 3 ans, ça commence en famille d'accueil, 3 ans et demi dans une autre famille d'accueil. T'sais, évidemment, c'est une fille qui est blessée. Et là, foyer d'accueil, centre de réadaptation. Et là, c'est ça. On la traite vraiment comme un cas problème. Il y a des salles d'isolement.
Ah,
elle est vraiment pas bien. Elle n'a jamais eu d'aide non plus.
Le titre m'avait déjà fendu en deux. J'avais un sac à dos et un toutou. C'est tout.
Mais
c'est
on la comprend-tu d'être désorganisée dans une situation comme ça? Puis probablement qu'elle est encore plus ostracisée parce qu'elle est désorganisée.
Oui. Oui, oui.
C'est capoté, là. C'est juste une roue qui s'enchaîne.
Mais c'est ça, t'as rien envie. Tu es un petit sac. Le message que la société t'envoie, c'est que tu ne vaux pas grand-chose.
Mais non, tu mérites presque juste ça.
C'est ça. Là, elle a justement, parce que quand elle arrive à 18 ans, elle fait des fugues à répétition. Elle arrive à 18 ans, elle revient d'une fugue à 18 ans, on lui dit « Ciao, bye! »
Mm-hmm. Ben, c'est souvent comme ça que ça finit. Dans 2 des 3 cas que je présente, les portraits, c'est ça qui est arrivé. T'sais, c'est tellement des endroits, les centres de réadaptation, où est-ce que, justement, ça ressemble beaucoup à des prisons. Les gens qui s'occupent de toi, c'est des travailleurs, c'est des employés. Ils peuvent être très, très dévoués, mais c'est pas des, justement, c'est pas des parents, c'est pas des gens qui vont t'envoyer. Il y a quelque chose de très, très froid dans un centre de réadaptation. Donc, puis beaucoup, beaucoup de coercition. Donc, les jeunes, ils ne sont pas bien là. Souvent, ce qu'ils cherchent à faire, c'est toujours de s'en aller, de fuir. Et là, souvent, ça finit comme ça. Ils fuguent une semaine avant leurs 18 ans, puis ils se donnent même plus la peine de les chercher, puis c'est débrouille-toi maintenant dans vie. C'est dans le cas de Mike, le premier. Lui, là, quand il est sorti, il n'y avait même pas de carte d'assurance maladie. Personne n'avait montré ça. Personne n'avait montré à faire une demande d'aide sociale.
Ce qui est la base dans notre tête, tu sais, qu'on se dit, mon Dieu, on n'a même pas pensé que nos parents nous ont fait faire
J'aurais
ça.
J'aurais le goût de prendre
donné,
Mike dans mes bras, de le serrer et de dire, viens-t'en, mon petit loup, je vais faire ta carte d'assurance maladie.
Parce qu'il doit être dépouillé juste au moment où on lui a demandé peut-être son identité dans la vie en disant, comment je fais ça, moi, montrer mon identité. Imagine comment on part de loin. Puis j'entendais cette enfant-mère, là, je la considère comme une enfant-mère. Elle n'a aucune ressource, elle ne donne rien à son enfant aussi. Elle donne l'amour qu'elle peut. Puis ça, c'est selon l'amour qu'elle a appris. Il y a ça aussi à prendre en compte. Là, on est rendu à deux cas, juste avec l'enfant-mère et sa fille.
C'est ça, parce qu'il faudrait que ces gens-là aient plus de ressources que moins. Il faudrait en amont, avant justement que ça explose à l'adolescence, parce que c'est évident, si tu te ramasses à l'adolescence en centre de réadaptation, ça peut pas comme bien finir. Donc, il faudrait vraiment... Tu as un enfant qui est traumatisé comme Mike. Écoute, sa mère était droguée quand il est né. Il est né en sevrage de drogue. Il faudrait qu'en partant, cet enfant-là, là, tu le bichonnes, tu le mettes dans la meilleure famille, que tu le suives, que tu aides à la limite ses parents. Mais cet enfant-là, tu dis, lui, là, les chances qu'il finisse moins bien que tes ados ou les miens sont pas mal plus grandes. Fait que, comme société, on serait gagnant à mettre des petits drapeaux sur ces gens, sur ces jeunes-là pour éviter qu'ils se ramassent en centre de réadaptation. En centre de réadaptation, c'est correct. À la limite, il y a des délinquants, mais je suis sûre qu'il y aurait comme vraiment beaucoup moins de jeunes en centre de réadaptation si ces jeunes-là pouvaient avoir de la thérapie, de l'aide. Alicia puis Mike, là, ils ont eu zéro thérapie, zéro aide pendant toute leur parcours.
Ils ont pensé que c'était ça, la vie. Là.
Ben oui, mais tu sais, puis Mike, lui, il a eu ses diagnostics, là, il y a 25 ans, il a eu ses diagnostics l'année passée. Et là, il est full de professionnels, de thérapie, là, ça va mieux, contrôle sa consommation. Évidemment, il y a de la dépendance dans lui, ses parents étaient dépendants.
Imagine si on avait fait ce diagnostic-là, s'il avait eu 7 ou 8 ans.
Exact.
Exactement. Comment on aurait pu aider ce jeune-là? Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on le pitchait dans des salles d'isolement. Là. C'est ce que tu racontes. Puis là, je me dis, OK, comment, comme société, on en vient à prendre un enfant qui est né de parents qui avaient des problèmes de consommation? Lui, il est né, il est en sevrage de drogue. Puis 13, 14 ans plus tard, que la solution, c'est en salle d'isolement.
Mais c'est parce que c'est dur. C'est des gens qui ont des comportements parfois violents. C'est des jeunes qui ne se gèrent pas. C'est des jeunes qui, chaque minute, peuvent changer d'état, d'humeur. Ils se comprennent pas. C'est tellement dur qu'à un moment, c'est vrai que pour les intervenants, avant que moi, je me désorganise, puis j'augmente en fait la détresse de la personne devant moi, je vais l'envoyer en isolement, mais si tu...
Mais Vince le racontait, il a vu là, des choses, des portes arrachées, puis il disait, moi, c'est sûr que les intervenants, c'est pas un travail qui est agréable, c'est très, très difficile. Mais c'est un peu comme une suite logique d'avoir ces comportements-là quand t'as le passé qu'ils ont. Donc c'est un peu ça, là, on leur dit, t'es rendu un délinquant, mais peut-être qu'il ne serait pas un délinquant, c'est plus tard. Mais là, tu es rendu un délinquant. Fait que là, organise-toi. Puis là, écoute les règles. Puis là, fais ça comme il faut. Puis là, tu as juste à vouloir t'en sortir. Puis tu as juste à vouloir. Mais c'est plus ça, là, rendu là. Ils sont brisés.
Bien, c'est parce qu'ils ont tellement de frustration interne que ça sort. Puis à l'adolescence, on le sait. Tu as déjà un combat hormonal. Fait que tu ne sais pas trop comment gérer tout ce que tu as en dedans.
Comment il disait, comment tu veux faire confiance? Confiance à ceux qui te mettent en isolement, c'est toujours de la coercition, c'est toujours de la punition, c'est toujours... Puis ils te disent, ben aide-toi, aide-moi, comment? Ils ne savent pas. Ils n'ont personne qui a appelé. Ils ne peuvent pas appeler les autres Clic Santé, prendre un rendez-vous, santé mentale. Je veux dire, ils sont totalement... Ils n'ont aucune liberté. Toute leur vie est calculée. Ils n'ont aucun libre arbitre. C'est quelque chose. Là.
Ce qui me fait de la peine aussi, c'est que pour beaucoup... Parce que là, j'étais tombée sur TikTok. Je ne sais pas comment ça s'est ramassé là, mais j'en avais parlé à Jeff. C'est rendu que dans les centres pour jeunes, donc les centres jeunesse, le téléphone est là pour certains. T'sais, si ça rentre en prison, on peut comprendre qu'en centre jeunesse, c'est rentré. Puis ils font des vidéos, puis ils montrent un peu dans quoi ils vivent. Fait que là, ils se font en plus appuyer dans le fait que ça fait pas de sens parce que c'est pas super chaleureux. C'est pas... Fait qu'ils se désorganisent encore plus, ils se criminalisent, ils deviennent violents, fâchés contre l'aide qu'ils pourraient avoir.
Contre le système. Là. Ben, tu sais, Mike, là, lui, à un moment donné, il avait son dossier traînait sur une table, puis il a regardé dans le dossier. Puis il a vu que sa mère était atteinte du cancer, puis que, tu sais, son cancer était incurable. Mais personne n'y a dit.
Ben, imagine.
S'il l'avait pas vu, là, il l'aurait pas su. Puis là, il ne pouvait pas leur dire qu'il l'avait vu parce qu'il se ferait de punir d'avoir regardé dans son dossier. Fait que là, il a fallu attendre un jour que là, il a repris contact avec sa mère, mais après ça, il est décédé juste 2 ans après.
Mylène,
il a juste
2 ans. Peux-tu poser une question? Tu suis beaucoup ces dossiers-là. Selon ton analyse, t'es chroniqueuse, je peux te poser. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il manque quelque chose? Parce que les intervenants, pour beaucoup, la majorité, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mmh. C'est des personnes qui font des jobs que bien du monde ferait pas. Ces jeunes-là sont malheureusement un peu dans la prison de la maltraitance là, depuis un bon bout. Où est-ce qu'on devrait attaquer les choses?
Mais c'est beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est, mais on le répète tout le temps, là, c'est la première ligne. C'est des services tôt, soit dans le communautaire. Le communautaire, c'est extraordinaire, puis moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement va pas fait pas plus de liens que le communautaire. Tu sais, la pédiatrie sociale, tous les organismes qui existent, les maisons de la famille. Tu sais, c'est toujours, sont tout le temps en train de faire des campagnes de financement, de vendre des biscuits pour financer leurs services. Mais ça, là, si c'était un vrai réseau où est-ce que des enfants en difficulté pouvaient aller, parce que quand tu arrives à la DPJ, c'est judiciarisé souvent. Fait que tu as toujours un côté, tu as le tribunal, c'est froid. Les intervenants aussi, tu sais, ils sont dans une administration, ils ont des règles. C'est très, tout est formel, beaucoup de formalités. Mais alors qu'au communautaire, c'est plus, tu sais, le lien de confiance est plus facile à établir. Fait que moi, je pense qu'il faudrait vraiment plus aller vers le communautaire, puis aussi s'assurer que les enfants qui sont pris en charge par la DPJ, c'est, tu sais, des fois, c'est un peu des situations là, où est-ce que la DPJ n'aurait pas besoin d'intervenir. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est des parents, ils traversent une mauvaise passe, ils ont besoin de répit, ils demandent de l'aide. Bien là, ils devraient avoir de l'aide au lieu d'embarquer dans la machine de la DPJ. Puis là, tu arrives avec une intervenante qui est peut-être pleine de bonne volonté, mais qui va mal orienter le dossier. Puis des fois, ça peut complètement dégénérer un dossier qui aurait pu être très, très simple au début, juste à être réglé avec
ça
des services.
Ça prend du temps au sein de la DPJ pendant qu'ils sont dans d'autres dossiers.
S'il y avait des super nannies qui allaient aider concrètement les parents, tu sais, qui pas les tu sais, il y en a un peu là, des causes perdues, comme les parents de Mike, là, tu te dis, eux autres, il faut t'enlever l'enfant.
Ouais, oui.
Mais tu sais, il y en a, sont à bout, sont fatigués.
Qui n'ont pas eu les outils eux-mêmes dans leur jeunesse.
Exactement. Je veux dire, on veut s'organiser. Tu sais, ça pourrait... C'est Pauline Marois qui avait déjà suggéré ça, d'avoir des super nannies. Tu sais, ça a l'air un peu caricatural, mais ça pourrait aider des gens concrètement qui viennent chez toi puis qui t'aident à t'occuper de tes enfants, gérer un horaire, gérer les crises. Ça pourrait être des solutions.
Je trouve tellement que tu as des belles pistes de solutions, Mylène. Continue à écrire sur les enfants de la DPJ. Continue à nous faire vivre leur histoire. Je suis certain que ça conscientise beaucoup de gens. Ça met de la pression sur la DPJ, ça met de la pression sur le gouvernement. Puis moi, avec ton idée des organismes communautaires, je proviens des organismes communautaires, je suis tellement d'accord avec toi. Donc, merci beaucoup de ton passage en studio.
Ça fait plaisir.
On s'en reparle bientôt.
Yes.
Cool. Salut. Mylène Moisan, chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Elle écrit des textes exceptionnels. Lisez-les dans le journal Le Soleil. Il nous reste un petit 3 minutes, Pascal. Faut absolument parler de ceci. Grosse nouvelle dans le monde du sport hier, Pascal. Imagine-toi, le Canadien de Montréal a signé le prodigue russe Ivan Demidov, une prolongation de contrat de 8 ans, 9,1 millions de dollars sur la masse salariale. C'est vu comme un coup de génie à travers la Ligue nationale. Alex Laramin, es-tu d'accord avec les analystes?
Ben, pour moi, c'est la meilleure signature qui a été faite hier, là. Même avec tous les agents libres. On parlera pas du contrat de Bowen Byram, là, qui est une catastrophe. Mais dans tout ce qui a été signé hier, c'est le meilleur contrat. On peut reprocher à Hughes de pas avoir ajouté certains joueurs, mais d'avoir Ivan Demidov pour les 9 prochaines années à Montréal. Pour moi, c'est un coup de génie encore de Hughes.
Hey Alex, on a eu une aura qui s'est un peu débalancée dans notre émission, donc on a un peu moins de temps. Fait que je veux y aller en rafale avec toi, avec plusieurs signatures. Bon, t'en as parlé, Bowen Byram, 6 ans, 12,5 millions de dollars par année pour un défenseur de 50 points. C'est une catastrophe. Jordan Carlson, cependant, 2 ans, 8,5 millions à Tampa Bay. Un bon coup.
Ouais, pour 2 ans, c'est sûr que John Carlson est en fin de carrière, 36 ans, mais 2 ans de contrat, tu peux pas te tromper avec ça. Défenseur offensif va pouvoir aider le Lightning pour les 2 prochaines saisons.
Sharks de San Jose, acquisition de Daniel Nurse, on signe Jacob Trouba à 8 millions par année, Mason Marchman à 6,75. Trop bien adapté pour la jeunesse de l'équipe.
Moi, je pense qu'on était rendu là du côté des Sharks. On veut faire un pas de l'avant. On a vu les Ducks faire les séries cette année. Les Sharks l'ont manqué par pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est important pour eux d'ajouter pour essayer de faire les séries avec un Macklin Celebrini, là, qui est une prochaine vedette dans le SNL.
Je suis très, très, très d'accord avec toi. Hey, moi, j'ai sourcillé quand j'ai vu Nico Hischier qui valait 11,7 millions de dollars par année avec les Devils. As-tu la même angoisse?
Non, moi, je trouve qu'au contraire, c'est sûr que c'est un petit peu cher là, pour le genre de joueur qui est Nico Hischier. Mais ce que j'aime, c'est que c'est 5 ans. Donc, son contrat va se terminer à 32 ans. Donc, on l'a vraiment pour son prime. Donc, pour ça, moi, je trouve que oui, on a payé un peu plus cher, mais on va chercher les meilleures années de Nico Hischier.
T'es en train de me convaincre. Je pense que la meilleure transaction, c'est le Mammouth de Utah qui l'a fait. Vincent Trocheck qui se retrouve à Utah. Il a encore 3 ans son contrat pour 5,6 millions sur la masse salariale et ça a coûté le défenseur Shane Durzi. Je trouve vraiment que le Mammouth a fait un pas en avant.
Ouais, moi, je trouve que Chris Drury, ça nous prouve que ce gars-là, on sait pas trop ce qu'il fait avec les Rangers. À date limite, on parlait de choix de première ronde qui étaient changés pour. Finalement, on a eu quand même des assets, des joueurs qui peuvent jouer maintenant, mais peut-être pas le retour qu'on attendait pour Trocheck. Puis pour Utah, c'est une belle acquisition.
Tellement d'accord. Alex Laramé, on va se reparler parce qu'il va encore avoir des mouvements dans la Ligue nationale. Il va avoir plein de sports encore cet été. Donc, on se reparle, c'est pas demain, au début de la semaine prochaine.
Bien, certains, on attend encore notre deuxième centre à Montréal, donc on attend cette transaction-là.
Exactement. Merci, Alex.
Ciao.
Salut. Alex Laramé, chroniqueur sportif pour nous, que vous allez entendre dans Marceau le matin. D'ici quoi, une semaine? Il va venir s'installer pour 4 semaines dans Marceau le matin avec Pascal CV et Yannick Marceau. Puis c'est moi qui vais venir faire la dernière semaine avec vous autres à
J'adore
la place
ça.
De Yannick Marceau.
On va
ça va être très plaisant. Pascal CV, merci pour la très belle émission.
À demain, mon ami.
On se reparle demain. Le retour s'en vient avec Nathan Meilleur, Antonine Iaccarini et Véronique Bergeron.